Coucou les movers et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Movers avec aujourd'hui un invité exceptionnel. Bon, en vrai, comme tous les invités, hein, je sais pas pourquoi je fais une présentation particulière, pas de différence. En tout cas, il s'agit du Globefighter Thibaut Marino, propriétaire et créateur et gérant de la salle du camp d'entraînement MMA Camp Brésil. Donc on s'est rencontrés tous les deux il y a un peu plus d'un an, mais comme avec les autres invités jusqu'à présent, des vraies connexions cosmiques, des connexions de cœur. Je me suis rendu l'an dernier au Brésil pour un stage de mouvement pour les pratiquants de MMA. Et ce qui avait commencé comme une petite aventure d'un week-end ou d'une semaine au Brésil, c'est évidemment, comme d'habitude, terminé en presque 5 mois de vie au Brésil à accompagner des combattants dans des plus grandes organisations, notamment à Vegas. Tout ça grâce au merveilleux accueil de Thibaut et puis évidemment avec grâce à la chaleur brésilienne. Donc aujourd'hui, on aborde pas mal de choses avec lui. C'est vraiment une expérience cosmique qu'on a vécue d'ailleurs tous les deux, parce que c'était des vraies expériences dans lesquelles on était en pleine transformation, que ça soit de mon côté. C'était la première fois que je commençais, par exemple, à oser faire et créer des formations en ligne, à partager un peu plus mon contenu et un peu plus mettre ma voix, mettre mon cœur, mettre mon âme dedans. Donc, il m'a beaucoup aidé à ouvrir mon cœur. Et puis, de l'autre côté, j'ai pu apporter dans son camp un peu cette partie technico-technique en m'occupant de la préparation physique des combattants. On était tous les deux aussi dans une phase de entrepreneuriale assez avancée. On a tous les deux une assez grande expérience de l'entrepreneuriat et donc on a beaucoup échangé sur les tenants et aboutissants, les dark side et les bons points de l'entrepreneuriat et tout ce qu'il y a caché derrière, évidemment. La recherche de validation externe, la relation à l'ego, bref, pas mal de choses intéressantes. Et puis, comme on a tous les deux ce background de combattant professionnel, je l'ai d'ailleurs aidé pour un combat qui a résulté d'un merveilleux finish, une merveilleuse finition. C'était une rear naked choke, un bel étranglement. Et bref, on a vraiment vécu des aventures incroyables et jusqu'à même travailler ensemble, collaborer pour l'amélioration de son service. Et puis voilà. Donc on se retrouve autour d'une conversation qui part un peu dans, comme d'habitude, hein, dans divers sujets liés à l'entrepreneuriat cette fois-ci beaucoup, mais aussi beaucoup à comment vivre plus en conscience, plus en nature. Donc, il partage avec nous pas mal d'outils de pensée qui lui ont permis de sortir un peu de crevasses, on va dire, de moments difficiles, et également des livres, des films. Et voilà, Thibaut, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et malgré toutes ses activités, les voyages, il a fait un tour du monde des arts martiaux qui est assez connu, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un d'extrêmement extrêmement sensible, qui a la main sur le cœur, une générosité, une transparence, une honnêteté et une sincérité absolument incroyable qui moi m'a fait totalement fondre et m'a fait reconnaître vraiment le caractère exceptionnel de la relation qu'on a pu bâtir lui et moi, de cette amitié, de cette fraternité, que ça soit sur les maths, en dehors, pour l'entrepreneuriat, pour la famille. C'est vraiment voilà une belle conversation à cœur ouvert et dans laquelle, comme d'habitude, vous aurez beaucoup d'outils pour optimiser votre expérience de vie sur Terre, avec cette fois-ci une petite touche un peu plus exotique, car c'est le premier podcast qu'on fait à distance. Thibaut est au Brésil, à Sao Paulo, et moi à Paris. Et donc voilà, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Comme d'habitude, hein, on fait ça à la mano. On avance à tâtons. On fait l'expérience aussi technique de la réalisation de ce type de conversation. Mais en tout cas, voilà, c'est comme d'habitude, en à peu près 2 heures, beaucoup de fun, beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'abondance. Donc, calez-vous bien au bureau, dans la voiture. Voilà, c'est parti. Je vous présente Thibaut Marino, a.k.a. le Globefighter, a.k.a. MMA Camp Brésil. C'est parti. Movers Podcast, épisode 3. La vie, quoi.
J'aime pas être en retard, mais tu vois, ce pays me force à devenir un retardataire. C'est un truc de ouf, mais je te jure. En fait, le pire, c'est que ça m'insupporte d'être en retard, tu vois. Je déteste ça, tu vois. Ça me met de mauvaise humeur et tout, quoi, tu vois. Et à chaque fois, tu sais, Juliana, laisse tomber. Elle, on fait un truc. Elle, tu m'entends?
Ouais, je t'entends. Ouais.
On fait un truc, elle se met, elle me dit, ouais, faut qu'on soit à 15h quelque part. À 14h50, elle commence à faire du maquillage, mec. Et alors là, c'est terminé, quoi.
La fin du game.
Et moi, après, tu sais, je suis de mauvaise humeur. Après, on s'embrouille. Et genre, c'est de ma faute. C'est parce que c'est moi, je suis pas, c'est moi, je m'énerve pour rien, etc., tu vois.
un début de journée comme on aime. Dans la douceur.
Bon, toi, ça va?
Bah écoute, ça va au top là, ça va au top. Trop excité là, l'idée de faire ce petit podcast avec toi là et de partager. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, enfin, c'est pas que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais il y a eu pas mal d'aventures là depuis notre dernier appel et tout. Donc ça va être agréable d'avoir ton retour, de savoir comment ça avance le camp et puis voilà, parler un peu de tout ça, tu vois. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'écouter le premier épisode là avec.
Si, ouais, si, j'ai écouté l'épisode de Steve.
Cool. Non, trop bien. Ouais. Alors, c'est quoi alors?
Ouais, carrément, j'ai kiffé. Non, c'est lourd. Bah, après, on est tous sur le même alignement de planète, j'ai l'impression.
Bah, c'est ça. Moins, simplement. Tu vois.
Et à peu près les mêmes expériences de vie aussi. Après, on vient pas des mêmes endroits, pas forcément les mêmes âges, quoique aussi, d'ailleurs, je pense qu'on a
plus de même âge, tous les deux.
Et, donc non, c'était intéressant. C'est intéressant.
Ouais, bah, c'est ce qu'on se disait, là. J'étais avec lui juste avant. Pour parler de tout ça, il était revenu de Normandie et tout, et puis je lui disais que j'allais faire le podcast aujourd'hui avec toi, et que malgré les différents chemins qu'on a un peu tous empruntés, c'est vrai qu'on a aussi des chemins qui se croisent, tu vois, notamment les arts martiaux et tout, mais au final on en arrive plus ou moins tous à des conclusions assez similaires sur comment vivre une vie un peu plus en paix, plus connectée en nature. On a un peu cette compréhension de la du caractère multidimensionnel, tu vois, de cette expérience de vie sur Terre, avec en partie la physicalité, la spiritualité, et voilà, et on adresse à peu près tous les mêmes démons.
Ouais, c'est ça. Ouais, je recherche de sens, tu vois, quête de sens.
Exactement, ouais. Quête de sens, quête d'héritage, ce que tu veux léguer.
Ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est aussi un confort de notre génération aussi aujourd'hui, quoi. C'est que finalement, on peut se permettre aujourd'hui à avoir cette quête de sens. Bien sûr que par rapport à il y a plein de gens qui sont pas forcément dans cette quête-là pour tout un tas de raisons, mais nous on y est et on a cette, c'est aussi une chance, tu vois. C'est parce que fut un temps les gens étaient en guerre et la survie était plus la monnaie courante des gens, c'était plus de savoir comment est-ce qu'ils vont survivre que de savoir si c'est en accord avec leurs valeurs, etc., ce qu'ils font au jour le jour, quoi. Avant, les gens se posaient pas la question, ils avaient pas vraiment le temps, quoi.
Ouais, il y avait l'impératif de survie, l'impératif même de production, il y avait d'autres choses qui prenaient un peu ce temps-là. Mais je pense pas quand même que il y avait pas ces réflexions, parce que toi comme moi, tu vois, on a aussi lu et étudié des penseurs et des auteurs qui datent d'il y a plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Donc, c'est-à-dire que cette quête, elle était quand même présente chez certains hommes, peut-être pas chez la plupart, mais après, je pense que c'est semblable à ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste que peut-être que nous aussi, comme on a la tête dans le guidon, on voit aussi les choses qui nous empêchent de penser plus, de penser plus loin, comme voilà, que ça soit le salariat pour certains ou tu vois, les taxes, les choses comme ça, tous les impératifs qu'on nous impose. Mais après, c'est vrai que cette quête de sens, je pense, c'est un trait de caractère humain. Et qu'au bout d'un moment, certains hommes, peut-être par, comme tu dis, hein, parce qu'ils ont le luxe du temps, ils ont le temps d'y penser. C'est vrai qu'un ouvrier qui est en plein dedans, il va pas avoir le temps de penser à ça. Mais ouais, je pense que cette quête de sens, ça fait un peu partie de notre histoire commune à tous, tu vois, ce qu'on se lègue aussi bizarrement, tu vois. Personne n'arrive à une fin, personne n'arrive à une conclusion. Et c'est quand même le questionnement qu'on transmet de génération en génération, tu vois. On se pose toujours tous les mêmes questions. C'est intéressant, tu vois.
Yes. Ouais, carrément, carrément.
Et toi, justement, là, en parlant de questionnement, de remise en question, transition parfaitement trouvée, là, raconte-moi tout, qu'est-ce qui se passe avec le camp, le MMA qu'on réside. On en est où?
Alors, bah, plein de choses, hein. Donc, là, comme je t'avais dit, on est en train de, en fait, on s'est mis d'accord avec le MES, là, l'appli sur l'ordi. Ouais, donc, en fait, avec le MES, là, après la pandémie, si ça a été assez compliqué pour, assumer le loyer de l'académie, en sachant que c'est une grosse surface et tout, donc ils s'en retrouvaient un petit peu en galère. Et ils étaient en train de chercher à éventuellement bouger, en fait, d'aller dans un autre local.
Ouais.
Ils avaient déjà une piste. Et en fait, moi, c'est venu un peu comme naturellement, en fait, hein, que je lui ai proposé de louer la partie, en fait, du bas de l'académie.
Ouais.
Pour que ça les soulage financièrement et puis moi de pouvoir avoir ma première expérience avec une académie qui sera à moi et ouais. Du coup en fait de prendre en main uniquement la partie prépa physique parce qu'en bas vous vous rappelez c'est la partie où on faisait la prépa physique et à côté il y avait une partie qui n'était pas du tout utilisée.
Absolument.
Du coup j'ai eu l'idée de faire diviser en deux d'un côté où c'était pas du tout utilisé donc de faire des chambres avec une espèce de comme un petit hostel quoi avec des chambres pour le même camp en priorité mais aussi après pour Airbnb pour des gens même des locaux tu vois les Manoara ou les Medjool Nord-Est qui font partie de l'équipe et qui viennent pour faire leur camp pour les combats sur São Paulo ça leur permettra aussi d'avoir un pied à terre enfin pour ceux qui peuvent se permettre de louer une chambre quoi.
Ouais.
Et après, donc la partie prépa physique, du coup de la transformer en une académie. Donc là, je suis en train de recréer donc une académie qui est complètement à part du MMA Camp, hein, quelque chose de complètement séparé.
Ouais.
Et où là, je proposerai donc des cours de prépa physique pour les compétiteurs arts martiaux, donc sport de combat, jiu-jitsu, MMA essentiellement.
Ouais.
Et aussi pour des élèves, des gens qui font habituellement, je sais pas, des gens qui par exemple, sont dans des clubs de CrossFit et qui veulent quelque chose de plus spécifique combat. On va essayer de proposer, un protocole, une méthodologie d'entraînement un peu dans le même genre, tu vois, que le CrossFit, mais quelque chose qui est plus spécifique combat.
Okay.
Donc là, ça a bien avancé. Ça fait 3 semaines. Là, on est sur la 3e semaine de travaux. Là, normalement, on est livré fin de semaine. Les chambres seront prêtes. Ensuite, il restera qu'à amener le mobilier, on a déjà acheté une partie du mobilier, là j'ai déjà eu les livraisons aussi pour le matériel de la prépa physique et tout, donc c'est en bonne voie, je pense que normalement là début novembre on va faire une inauguration.
Ah c'est magnifique ça, et tu pourras accueillir on va dire dès le mois de novembre même des Français qui pourraient partir au Brésil et tu peux déjà les accueillir.
Complètement, ouais, complètement. Du coup, là, on est en train de voir encore ce qu'on va faire. Pour l'instant, les jambes, là, en ce moment, on a 2 stagiaires qui sont là,
ouais.
Qui sont dans des chambres qui sont en dehors du camp, comme c'était le cas pour l'instant pour tous les stagiaires qui sont venus jusqu'à maintenant. Et du coup, là, ça me permettra de faire une offre aussi pour des gens qui veulent venir et vivre dans le camp. Enfin, tu vois, comme des camps. Comme en Thaïlande par exemple où t'as une chambre vraiment directement dans le camp quoi. Donc ouais. ça va être vraiment cool. Ouais. Et puis sur la partie prépa physique autant de toute façon ça restera intégré au stage des gens qui viennent pour le MMA camp, mais aussi ça me permettra de travailler sur une clientèle plus locale
ouais.
de gens qui veulent faire de la prépa physique.
Dans cette partie-là, cette clientèle locale, comment tu l'abordes? Parce que toi, t'es français, tu vis au Brésil, c'est des Brésiliens. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qui sont assez difficiles dans, tu vois, transmettre le message? Est-ce qu'ils font confiance à quelqu'un d'étranger pour leur transmettre ce genre de choses? Ou est-ce qu'il y a ce genre de petites embûches?
Ça après c'est clair que l'intégration dans un nouveau pays c'est toujours quelque chose de compliqué. D'ailleurs c'est intéressant justement le voyage pour ça, c'est-à-dire de se rendre compte que c'est pas simple l'intégration dans un pays, et notamment parce que enfin quand je pense à la France et toutes les problématiques que l'intégration peut apporté aujourd'hui dans notre société moderne, et c'est voilà, moi je me suis retrouvé confronté à ça ici, et c'est vrai que au départ ça a été un peu compliqué dans le sens où j'étais un Français qui venait pour combattre au Brésil, donc pour s'intégrer dans une équipe de combattants de MMA, etc. Donc l'intégration a été compliquée parce qu'il voilà, il fallait faire ses preuves, fallait montrer que t'étais dédié, tu vois, au travail, que t'étais là tous les jours, motivé pour combattre, etc. Donc c'est une position qui est particulière. Après là c'est un peu différent parce que du coup j'ai déjà fait quand même ma place, tu vois, dans l'équipe. Même quand j'ai bien fait ma place, même dans l'équipe, on va dire. Je me retrouve déjà dans une position de préparateur physique pour la plupart des compétiteurs aussi. Ouais, donc c'est déjà, c'est comment dire, j'ai cette position, si tu veux, vis-à-vis des compétiteurs. Donc après, pour les élèves, les gens qui viennent le soir, qui sont des gens qui bossent et qui font l'académie en plus de leur travail, j'ai cette posture, tu vois, de préparateur physique pour les compétiteurs, bah pour eux c'est clair que c'est ça va être beaucoup plus simple, tu vois, d'être accepté. Après, pour la clientèle locale, pour l'instant, en fait, on est simplement en train de travailler sur une stratégie, tu vois, plus de classique, tu vois, de faire des flyers, ouais, les distribuer. Ici dans le quartier, on a beaucoup de prédio. En fait, ici les gens vivent beaucoup, enfin les gens ont des moyens, on va dire la middle class, ils vivent beaucoup dans des prédios sécurisés, fermés,
ouais,
où il y a un garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout un, ah oui, un service en fait qui paye autour de ça. Et du coup, d'essayer de se faire connaître auprès des syndics de copropriété, tu vois, de ces prédios là, essayer de se faire connaître auprès des commerces aussi. Il y a un magazine aussi de quartier, donc qui promouvoit un peu les commerces justement du quartier. Je me positionne comme un quelconque Brésilien qui monte un business de prépa physique, quoi. Enfin, comme un mec qui monte une académie de CrossFit ou quoi, quoi. Tu vois.
Ok. Donc, ça, c'est pas mal. T'es assez local, assez proche de ce que eux aussi, leur chaîne de traction, tu vois. Eux, ils sont sensibles aux flyers, aux choses un peu plus physiques. Donc, pas la peine de se casser la tête à faire des choses plus complexes en ligne, etc. Sachant qu'eux, ils résonnent avec les choses qu'ils voient, tu vois. Donc ouais, ça semble être la bonne stratégie. C'est aussi ce qu'on voit dans les pays un peu comme en Thaïlande, tu vois. Toi, t'y as été, c'est très bien que tout marche au bouche à oreille quasiment, tu vois. Ils font pas de pub sur Internet, ils font rien. Enfin, les plus petites académies, elles fonctionnent comme ça. Et puis ouais, ça marche tant que le service il est bien, il est de qualité et que tu réponds à un besoin. Au final, ça paye, quoi. C'est tranquille.
C'est clair. Bah complètement. Ouais, c'est comme on disait la dernière fois, tu vois, par rapport au MMA Camp. Où là j'ai une clientèle, enfin pour l'instant en tout cas j'essaie de proposer plus ça aux Français. Donc là ouais, on est obligé de passer par du réseau social, par Instagram, essayer de faire quelque chose, tu vois, vendre une atmosphère, vendre quelque chose, un univers, tu vois, autour de des stages de MMA au Brésil, etc. Ce qui est pas du tout le cas là quand tu fais un business local, où là voilà, ouais, faut aller vraiment parler aux gens qui sont à côté de chez toi, qui passent dans la rue le matin pour aller prendre le métro. Et
c'est agréable d'avoir ce côté, tu sais, plus humain, juste une petite conversation, une poignée de main, et puis voilà, des fois ça y a que ça qui marche, tu vois.
Complètement. Puis moi ça me plaît aussi, tu vois, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été entrepreneur depuis tout jeune, quand j'ai commencé par travailler sur les marchés, donc j'ai toujours eu ce côté, tu vois, parler avec le client en face à face, tu vois, l'ambiance des marchés, je vendais des fruits et légumes et tout, donc c'était une ambiance de proximité avec les clients que je voyais chaque semaine et tout, donc c'est quelque chose qui me plaît aussi, quoi, que j'ai moi depuis longtemps.
Mais c'est bien, là tu fais aussi le parallèle, t'expérimentes en fait les deux univers. Moi de l'autre côté, je viens de l'univers, comme tu le sais, c'est purement informatique, à distance, etc. Et ce qui fait que le côté personne à personne, je l'ai moins expérimenté, même si là j'essaye de le faire avec les stages, les week-ends et tout. Alors que côté en ligne, il semble un peu plus austère. Et c'est vrai qu'il y a moyen, comme tu disais, tu sais, de vendre une atmosphère, un imaginaire, tu vois, créer un langage commun. Et ça peut être aussi un outil assez puissant, tu vois, pour véhiculer tes idées, véhiculer ta passion et transmettre ton message et tes valeurs. Tu vois, moi je sais que là le MMA Camp, toi t'as aussi une vision bien plus large et à long terme, c'est quelque chose aussi, quand tu m'en parlais, qui était assez fabuleux, rien qu'à imaginer. Tu
vois. Ouais, complètement. En fait, moi, la première fois que je suis venu au Brésil en 2015, je comprenais pas pourquoi il y en ait pas, en fait. Tu vois. Parce que pour avoir été déjà en Thaïlande, j'avais été en Thaïlande déjà quelques années auparavant. Je trouvais ça bizarre parce que la Thaïlande, ouais, pour le Muay Thai, c'est la maison mère, mais après pour le MMA, je m'étais toujours dit le Brésil, c'est de là que viennent tous les la première génération de de combattants avec le Japon, avec les États-Unis, mais c'est vrai qu'au départ, c'était quand même beaucoup le Brésil, même encore maintenant, ils sont hyper présents dans les plus grosses ligues internationales. Donc ouais, non, c'était quelque chose qui tombait sous le sens pour moi. Et après, le fait d'être parti donc faire mon tour du monde, d'avoir vécu dans pas mal de pays, et puis au final arriver ici et de me rendre compte que vraiment le quotidien me plaisait ici, la vie avec les gens me plaisait, le pays me plaisait et tout, je me suis dit bah c'est quelque chose à faire, c'est clair quoi. Donc au départ j'ai tenté vraiment l'expérience comme ça, sans vraiment en attendre des retours exceptionnels, et puis au final ça a bien fonctionné. Pour l'instant, tous ceux qui sont venus ça a bien plu, et puis on essaie de petit à petit implémenter de nouvelles choses, essayer de y aller petit à petit, doucement mais sûrement.
Exactement. Et je sais que ça, justement, y aller doucement mais sûrement, c'est quelque chose qui est assez compliqué d'en arriver à cet état de conscience, comme pour toi, comme pour moi, mais comme je pense pour la plupart des entrepreneurs, et en particulier les entrepreneurs qui essayent de vivre de leur passion, tu vois. Pas nécessairement celui qui veut trouver la méthode la plus rapide pour faire de l'argent, mais celui qui veut vraiment, qui est passionné là par la préparation physique, le MMA, les arts martiaux, et qui veut en faire, qui veut en vivre. C'est compliqué, on a tellement, tu sais, ce feu à l'intérieur où tu dis j'ai envie que ça soit, tu sais, énorme, et tu sais, t'as tellement d'idées, t'as tellement de choses, mais la réalité des choses, elle fait que tout n'avance pas aussi vite que ce que toi t'imagines, et c'est une vraie leçon de vie d'apprendre à être patient. Tu vois,
complètement. Ah, puis après, moi, c'est de toute façon, on se connaît bien. T'as suivi déjà l'expérience de mes camps depuis le départ, donc tu sais bien que c'est exactement mon cas. Après, c'est vrai que tu vois, plus le temps passe, et plus je me rends compte en fait que c'est une évidence quoi, en fait, que bien sûr que il faut être patient, bien sûr que les choses elles viennent pas toutes seules. Même dans ma petite expérience de la vie, pour l'instant, j'ai 31 ans. Je peux me rendre compte de ça aussi, quoi, que finalement, c'est des échecs, c'est de plein de petits échecs, plein de petites expériences que finalement tu te construis, et que t'arrives au bout à pouvoir. Par exemple là, ce que je suis en train de mettre en place avec le MMA Camp, je pense que sans mes expériences passées, j'aurais pas pu le faire, en tout cas de cette façon-là, ou dans ce délai-là, rencontrer les gens de la façon que je les ai rencontrés, avoir l'approche professionnelle que j'ai eu avec eux de la façon que je l'ai eue, et d'avoir du coup les réponses qu'ils sont en train de me donner dans le timing qu'ils me donnent, etc. Tu vois, par exemple là, juste avant, j'étais au téléphone avec un graphiste qui est en train de s'occuper de faire toute l'identité visuelle de l'académie de prépa physique qu'on est en train de monter. Et avant, je travaillais dans la fabrication de vêtements, donc j'ai beaucoup travaillé avec des graphistes. Tu vois, je connais les difficultés qu'ils ont, tu vois, pour pouvoir communiquer avec les clients, pour pouvoir avancer sur des projets et tout. Du coup, ça facilite vachement, quoi.
Absolument.
J'espère que on grandit de tout ça, et là, je suis encore en train de grandir, et en fait, c'est une perpétuelle évolution comme ça, c'est une constante évolution, tu vois, comme dans les arts martiaux, tu vois, c'est en fait, on passe notre temps à apprendre tout le temps, quoi.
C'est clair. Et au final, tu te rends compte, même si c'est pas quelque chose qu'on voit quand on y pense. Par exemple, on se dit voilà, j'ai envie de matérialiser ce truc-là, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Sur le moment, quand tu y penses, tu dis mais alors je comprends pas. Tu peux être frustré, tu vois. Tu peux dire je comprends pas pourquoi ça s'est pas déjà fait, pourquoi c'est aussi lent, etc. Mais une fois que tu le vis et que t'acceptes que en fait ouais, c'était censé venir à ce moment-là, tu vois. Et moi j'en ai fait l'expérience même là, juste avec ce podcast là, quand je l'ai lancé. Et ben moi, comme tu le sais, je t'en avais déjà parlé l'an dernier quand j'étais au Brésil avec toi, et je te disais que ça faisait déjà plusieurs mois que j'y pensais. Donc là, au total, j'ai repoussé le projet pendant presque 2 ans. Mm-hmm. En ces 2 années, j'ai eu des prises de tête et des conversations avec moi-même qui ne mènent nulle part, tu vois, parce qu'au final, là, il y a quelques semaines, quand je l'ai enfin posté, et ben, comme tu viens de le dire, c'était le parfait moment, en fait, pour le poster. T'as suffisamment d'expérience, t'as suffisamment réfléchi la chose, t'as grandi, comme tu le disais à l'instant. C'est que t'avais besoin de passer par toute cette phase de frustration, de questionnement, de doute et de peur pour arriver à sortir. Voilà. Et qu'au final, tout ce temps passé à obséder à propos des détails, c'est pas que c'est du temps inutile, c'est juste que ça fait partie des leçons de la vie. Comme en art martial, tu vois, t'arrives pas et tu sais faire un triangle le premier jour. Non, t'arrives et tu dis, OK, je suis ceinture blanche. Eh ben, vas-y, on vient tous les jours parce que il y a que ça à faire. Je peux pas avancer si je viens pas de toute façon. Donc, autant venir et rester ceinture blanche 1 an et demi, 2 ans, pour après avoir ta ceinture bleue, mais c'est comme ça en fait. Tu peux pas, on peut pas raccourcir ce délai-là.
C'est clair. Non, puis après ça c'est aussi quelque chose finalement, je pense qu'on amène. Enfin moi en ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose que j'amène aussi de, tu vois, de la scolarité. Et tu vois, j'écoutais le podcast hier de Steph qui parlait qu'il avait eu un échec scolaire aussi. Et tu vois, enfin après je sais pas, je crois que toi c'était pas vraiment ton cas.
Ouais.
Mais moi en tout cas, c'est quelque chose que j'avais pris comme ouais vraiment un échec, tu vois, de la dans la vie, tu vois, en général, et que en fait on diabolise beaucoup, tu vois, alors que finalement le fait d'avoir un échec, c'est quelque chose de positif, tu vois. Bien sûr que faut en apprendre de ces échecs, faut essayer d'en ressortir plus fort et tout, mais c'est quelque chose de positif, quoi. Et moi là j'en suis à finalement la troisième fois que j'entreprends dans ma vie. Et ouais, donc là j'ai tout ce que j'ai tout ce sur quoi j'ai échoué, j'en ai récupéré le positif, et aujourd'hui ça m'aide à faire ce que je fais maintenant, et ainsi de suite. Et je pense que c'est comme ça pour tout, même pour la voie martiale, tu vois. Aujourd'hui, parce que quand j'étais en France, j'avais pas forcément le cadre que j'ai ici, c'est-à-dire qu'ici on a une structure où c'est MMA, tu vois, c'est-à-dire on s'entraîne vraiment dans toutes les disciplines. Il y a un maître, un head coach, tu vois, comme on pourrait dire aux États-Unis, et voilà, on a des entraînements qui sont faits autour du MMA, qui sont structurés pour devenir combattant de MMA. Alors qu'en France, quand j'y étais encore, c'était voilà, fallait être dans un club de pied-point, dans un club de lutte, dans un club de grappling, et s'adapter aux horaires de chacun. Comme en plus c'est souvent associatif, bah ils ont souvent des gymnases qui sont ils ont des horaires dans des gymnases qui en général c'est dans des villes différentes, donc du coup c'est les horaires qui sont souvent les mêmes, donc du coup tu peux pas ou très difficilement t'organiser pour aller dans les trois clubs en même temps.
C'est clair.
Et voilà, au final t'arrives pas à faire, tu vois, un travail cohérent. Là je pense que ça a déjà bien évolué depuis que je suis parti. Je pense qu'il y a de plus en plus d'académies, et là en plus maintenant avec la légalisation du MMA ça va se développer encore plus.
Oui.
Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où t'as une structure, t'as une méthodologie, t'évolues beaucoup plus vite. Et il y a rien qui vient sans se donner, tu vois. Je veux dire, comme là, je disais l'autre jour aux stagiaires qui sont ici, l'avantage qu'ils ont quand ils viennent ici, c'est qu'on va leur donner des outils, tu vois, des outils de travail, une méthodologie pour travailler, pour évoluer. Après, ça va dépendre de l'implication de chacun et du nombre d'heures que chacun va passer à travailler. Leur évolution, après ça dépend pas de moi, on n'est pas des magiciens, tu vois. Nous on peut leur donner les outils, on pourra leur donner la structure. Après s'ils s'impliquent et que ils s'entraînent à fond comme ça ici, et qu'après ils rentrent en France et qu'ils arrivent à continuer, bah oui, ils auront une évolution, ça c'est garanti sur facture, parce que moi-même j'en suis l'exemple vivant, tu vois, je peux le prouver. Donc voilà, je suis sorti un petit peu du sujet là, je crois.
Ouais. Non, mais t'inquiète, ça va. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais là, juste en rebobinant un tout petit peu sur cette idée là d'échec scolaire. Et de toute façon, c'est en rapport aussi avec ce que tu disais juste après avec la pratique martiale, c'est que quand t'essayes de mettre quelqu'un dans un cadre justement qui n'est pas celui dans lequel déjà il a envie d'évoluer, et qui n'est pas aussi propice à l'évolution comme c'est pour le cadre scolaire de manière générale, tu vois, et ben c'est sûr que tu vas produire des, ben là comme là dans ton cas ou celui de Steph, des gens qui se rebellent un peu en fait, qui sont juste, c'est parce qu'ils sont pas à l'aise dans cette structure là dans ce cadre là et donc c'est de fait, t'es en train d'essayer de faire rentrer quelqu'un dans un moule auquel il appartient pas. Et tu vois l'exemple là de vous deux, et c'est aussi l'exemple de beaucoup beaucoup de moi, mes amis, les tiens, etc., c'est qu'au final ces gens là c'est parmi les plus créatifs, et qui deviennent tous entrepreneurs, tu vois, qui deviennent tous à leur compte. Et donc ce qu'on peut pointer du doigt au début comme étant, ah c'est des échecs scolaires, ou c'est des gens sur lesquels on peut pas compter parce qu'ils aiment que le sport ou l'art ou la danse. Moi ça a été le cas avec la danse, ma sœur également avec la danse, en disant ouais mais ça c'est pas des métiers, c'est des sous-métiers, il faut aller à l'école et faire ça. Au final, en fait, t'es en train de, voilà, de faire entrer des gens dans un moule qui est pas du tout, qui leur correspond pas, et tu les empêches de progresser. Donc là, toi, c'est top que ce que tu fais aussi maintenant dans ta troisième tentative entrepreneuriale, c'est justement proposer un cadre et une structure là où toi, on te l'a pas fait, tu vois, tu résous un problème que toi, t'aurais aimé avoir bien plus jeune. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'une, d'un projet entrepreneurial comme le tien, tu vois, c'est que c'est réellement quelque chose qui t'a touché et tu le résous au mieux que tu peux. Et moi, je sais que je suis très sensible à ça parce que c'est ce que j'essaye de faire aussi avec la mobilité. C'est à un moment dans ma vie, j'aurais aimé qu'on me l'apprenne. Personne n'a été là pour le faire. Donc là, c'est ce que j'essaie de proposer aux autres. Et c'est ça qui fait que le projet semble, tu sais, bien partir, quoi.
Non, complètement. Bah après voilà, ça, tu vois, sans pour autant dire que le moule de l'éducation nationale est un moule pas bon, tu vois, il est bon peut-être pour certaines personnes, après pas pour d'autres. Après l'idée c'est que chacun doit trouver finalement son propre moule ou créer son propre moule, je pense que c'est surtout ça, et nous c'est ce qu'on est en train de faire.
Ouais.
Et du coup, je pense que bah après pour chacun d'entre nous qui faisons ça, moi je me retrouve plus en paix finalement avec moi-même, tu vois, parce que je fais des choses au quotidien finalement. Quand tu regardes mon quotidien, je travaille quand même beaucoup, quand tu avec les entraînements, les coachings, plus là par exemple le fait de créer cette entreprise, faire les logements, etc. Mais c'est pas quelque chose que je prends comme une difficulté, tu vois, parce que au final c'est que du positif, quoi, c'est que des choses que je fais, que j'aime faire, et ouais, c'est beaucoup de travail. Hop, pardon. C'est beaucoup de travail, mais voilà, c'est un travail que j'aime, c'est des choses que j'aime faire et tout. Donc non, c'est que du positif, quoi.
C'est différent quand c'est toi qui es aux manettes, en fait, quand c'est toi qui dirige le train de ta vie. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable que si c'est quelqu'un qui te l'impose. Et justement, en parlant de ça, moi j'ai beaucoup de gens, même là, je reviens de Lyon le week-end dernier, j'ai fait quelques stages. Et j'en ai beaucoup qui me parlent souvent de cet aspect-là, en fait, c'est qu'ils sont au bord du gouffre, au bord du précipice, à deux doigts de prendre la décision qui va un peu changer ou tout chambouler dans leur vie, mais voilà, qui ont encore un peu peur, qui n'osent pas. Et moi, j'aime bien justement discuter avec toi ou avec Steve ou avec les gens comme ça pour justement voir les outils de chacun qui leur ont permis de faire ce pas-là, tu vois. Et toi, est-ce que ça, tu te rappelles, est-ce qu'il y a un moment clé dans ta jeunesse où il y a eu un événement ou peu importe, une influence qui t'a permis justement de passer très vite vers ce côté de la barrière dans lequel tu dis j'ai envie de prendre les choses en main et j'ai envie de me responsabiliser, tout simplement. Est-ce que t'as un moment clé ou un souvenir qui te vient en tête, ou c'est plus une accumulation d'expérience?
Bah alors moi c'est pas vraiment lié avec l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat je l'ai eu en fait dès que j'ai eu cette envie d'entreprendre, dès que je suis sorti de l'école en fait, donc ouais. Assez jeune, j'ai quitté le cursus scolaire après vers 19 ans. Donc dès le départ, voilà, j'ai voulu entreprendre et j'ai commencé vraiment directement, quoi, dès que je suis sorti de l'école. Donc c'était pas vraiment à cette période-là, parce que j'ai entrepris, mais au départ plus dans une mentalité, justement comme tu disais tout à l'heure, de faire de l'argent, quoi. C'est-à-dire la manière la plus rapide de faire de l'argent, et pas forcément en kiffant, et pas forcément dans quelque chose qui me plaît, tu vois. Ouais. Donc, au départ, je travaillais la fabrication de vêtements. J'avais appris le métier via un boulot que j'avais eu donc dans une entreprise qui faisait de l'importation, etc. Donc j'avais appris le métier. De là, j'avais quitté cette entreprise et j'avais décidé de faire ça à mon compte. Et puis après, j'avais fait ça donc en autodidacte avec des usines au Portugal. Et j'étais vraiment, tu vois, à chaque fois dans une logique de pour vraiment vulgairement tout niquer, quoi. Je voulais vraiment tout niquer, quoi. C'était vraiment le leitmotiv, c'était ça, tu vois. C'était c'était moi, voilà.
Première,
je veux être le mec, tu vois.
Tout dans l'ego,
les sous avant tout le monde, tu vois, tout dans l'ego, exactement. Et puis bon, bah c'était aussi une période de ma vie où je me construisais, tu vois, comme jeune adulte. Et où il y avait quand même un échec scolaire un petit peu avant, tu vois, des choses à prouver, et puis des choix pas forcément très très bons, tu vois, que j'ai fait pour moi, autant sur le côté perso, tu vois, un petit peu de délinquance aussi, comme pareil, j'entendais Steph qui disait dans son podcast, je cite à chaque fois parce que ça m'a fait rire, tu vois, comment.
Je disais, faut que je ramène un bac plus 8 la prochaine fois, parce qu'on va me dire, tu me ramènes que des délinquants sur ton podcast.
Yes, ramène un intellectuel, mais là, pour l'instant, c'est limite. Mais voilà, donc, petit passage dans la délinquance. Enfin, quand je dis délinquance, c'est entre guillemets, tu vois, bien sûr, pas, pas des trucs de fou non plus, mais bon, c'est vrai que voilà, il y a eu des moments où j'ai pas fait des bons choix, et il y a eu un moment clé, tu vois, vers mes 24 ans, où j'ai pris conscience, tu vois, que j'étais pas sur un chemin qui allait me mener vers des bonnes choses, et qu'il fallait que je change, tu vois, de façon de voir la vie, même plus en général, tu vois, parce qu'en fait, comme je te dis, j'entreprenais déjà depuis 4-5 ans, donc j'avais déjà, tu vois, cette volonté d'indépendance, cette volonté de faire les choses par moi-même, etc. Mais c'était plus sur quoi faire, en fait, tu vois. Et du coup, à cette époque-là, j'ai aussi une prise de conscience sur plus général, tu vois, sur l'état du monde, l'état de notre société, tu vois, ce vers quoi on va, ce qui est devenu aujourd'hui, tu vois, ma vision des choses. Et voilà, j'ai voulu en changer, voulu changer un peu ma façon de m'occuper de moi, ma façon de, tu vois, donc comme vous disiez aussi, tu vois, ma façon de m'alimenter, ma façon de m'entraîner, ma façon de faire les choses, tu vois. J'ai commencé aussi un peu à lire à cette époque-là, alors que je lisais pas du tout avant.
Ouais.
Donc à m'intéresser à de nouvelles choses, notamment à la naturopathie, un peu à la philosophie, un petit peu au corps humain aussi, à travers je commençais un petit peu à m'intéresser à la préparation physique, à ces choses-là. Et en fait, c'est voilà, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont changé. C'est-à-dire que j'ai voulu commencer à entreprendre, mais plus dans une forme consciente, tu vois, de ce que je veux pour le plus sur le long terme, tu vois, avec une forme consciente plus sur le long terme, et d'optimiser aussi, tu vois, avec une certaine sorte d'optimisation, c'est-à-dire de pas perdre de temps, aussi de pas vouloir, parce que j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, dans le ça va de pair, je pense, avec cet esprit un peu entrepreneur, tu vois, de requin entre guillemets, tu vois, j'avais un peu un esprit matérialiste aussi, tu vois, de vouloir matérialiser les choses, tu vois, avoir la grosse voiture, avoir directement tout de suite la grosse maison, etc. Enfin, j'avais créé tout un espèce de paradigme dans ma tête, et en fait ce paradigme a complètement changé à cette époque là donc ça a été crescendo, mais voilà, à cette époque là ça a commencé à bien changer. Je commençais aussi à, parce que je voyageais déjà pas mal avant, mais quand j'ai commencé à entreprendre, du coup j'avais un petit peu arrêté, parce que voilà, je me concentrais vraiment sur mes activités d'entrepreneur et tout. Et du coup, à cette époque-là, j'ai commencé à relâcher un peu la pression, à me dire essayer, voilà, tu vois, de continuer à travailler, continuer à entreprendre, mais avoir plus de temps aussi pour moi, voyager. Du coup, à cette époque-là, j'étais allé en Inde, c'est la première fois aussi, donc du coup j'ai été au Brésil. Je m'étais mis des challenges aussi un petit peu, j'avais été j'étais escaladé une montagne avec des amis là qui habitent dans les Alpes. Voilà, tu vois, d'ouvrir plus mon esprit. Donc quoi, c'était à cette période-là que vraiment tout a changé. Ensuite, j'ai commencé à faire à m'intéresser plus, donc parce que j'ai toujours été passionné d'arts martiaux, et du coup, je me suis dit à cette époque-là, pourquoi pas essayer de passer mes diplômes fédéraux pour pouvoir peut-être par la suite monter quelque chose, un club quand tu vois, plus tard ou quoi. Donc vraiment tu vois, sans ambition aucune, j'ai commencé à passer mes diplômes fédéraux. Après, finalement, j'ai eu l'opportunité de faire un diplôme d'état de coaching. C'est hyper bien passé, j'ai beaucoup aimé ce qu'on étudiait et tout. Et c'est à cette époque-là, en fait, donc en passant mon BPJ, parce que j'ai eu cette idée de faire le tour du monde des arts martiaux, et du coup de tout quitter, laisser complètement tomber ce que je faisais à cette époque-là, de prendre mes économies, d'acheter un billet d'avion autour du monde, contacter les meilleures académies de MMA de la planète, et puis aller, quoi, puis partir et faire un stage dans chaque endroit, quoi.
Ça, c'est incroyable. Là, ce que tu as fait, et moi, je te le disais déjà l'an dernier, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que tu as eu le réflexe, l'idée de génie, en fait, c'est de tout filmer. Et donc maintenant, cette expérience-là, avec ton ami, c'est ça qui a fait l'editing, elle est disponible sur YouTube. Moi, je mettrai le lien dans la description là, de ce podcast, mais
Mais ça qui est incroyable, c'est qu'on te voit vivre dans les différentes académies, on te voit dormir sur les tatamis, toutes ces histoires un peu qui sont un peu les petits moments de vie qu'on partage tous. Quand on a fait les arts martiaux, quand on a voyagé aussi pour les arts martiaux et quand on a essayé d'en vivre, on partage tous ces histoires d'aller dans une petite académie en Thaïlande, de dormir sur les tatamis, de manger ton petit pad thaï, d'aller aux entraînements, tu vois. Ça fait partie de cette idée romantique presque de l'athlète artiste martial nomade, un peu à la Sangoku avec le baluchon qui va voyager tout seul et qui pour la bagarre, quoi. Et ouais, et tout, c'est que c'est tout est filmé. D'ailleurs, c'est super bien fait, l'editing et tout. Moi, j'ai adoré. Ça me met des frissons. Je suis d'ailleurs dans l'épisode 10. Donc, à voir. Mais ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est que on voit ce que c'est, en fait, d'entreprendre, d'essayer de faire quelque chose de sa passion ou de simplement oser vivre un moment de vie, simplement pour le pur plaisir, tu vois, de l'expérience. Et c'est ça qui est beau à travers ce documentaire. En tout cas, moi, ce que j'en ai retiré, c'est que justement, ça dépeint un visage qu'on voit jamais de la pratique martiale. Et au travers des petits épisodes, même il y en a qui sont très succincts, mais tu vois que tu crées des connexions de cœur avec les gens, que tu t'imprègnes de culture, que tu te mélanges. Et à travers tout ça, tu peux sentir, même à travers les images et la musique, qu'il y a vraiment, il y a une vraie transformation de vie, tu vois. En tout cas, moi, ce que je vois dans les vidéos, c'est que je vois plus quelqu'un d'humain que n'importe qui que tu verrais dans la ville ou tes voisins, etc. C'est pour moi, c'est ça, être humain, tu vois. C'est oser aller vers l'autre, partager, échanger. Là, en plus, au travers de quelque chose qui est physique, tu vois. Donc, ça t'ancre dans le mouvement du corps, dans le mouvement du cœur. Et ouais, c'est absolument fabuleux, c'est incroyable.
Je pense que c'est notre fonction aussi, tu vois. C'est dans notre identité, c'est dans notre ADN. Tu vois, le fait d'aller communiquer les uns avec les autres, le fait de partager, le fait de tu vois, c'est complètement à l'opposé finalement de ce vers quoi on va dans les sociétés. Bon là, du coup, je vais partir un peu philosophie, ouais. Tu vois, mais dans nos sociétés un peu individualistes où justement, tu vois, c'est chacun pour soi, un peu voilà, tout le monde avec plus ou moins le même rêve un peu superflu, et puis on y va, on fonce, et puis un jour on se rend compte que voilà, on n'a pas eu suffisamment, en tout cas, d'expérience avec notre cœur, tu vois, justement de sincérité avec nous-mêmes, et du coup de sincérité avec les autres. Et là, c'est ce qui m'a rempli de bonheur pendant tout ce voyage, c'est que c'était ça a été difficile dans certains aspects, parce que voilà, c'est un milieu quand même assez difficile, hein, le milieu des arts martiaux, tu vois dans n'importe quelle académie dans la planète, voilà, pour arriver, t'intégrer, surtout comme à chaque fois, moi j'ai fait un peu souvent, d'ailleurs j'ai un pote souvent qui se fout de ma gueule avec ça, que j'ai fait l'erreur de me présenter comme compétiteur, tu vois, à chaque fois quand j'arrivais dans des académies, c'est les mecs, ouais, c'est, je suis combattant, tu sais, j'aurais pu me présenter, je viens juste pour faire un entraînement, mais moi, j'ai joué le jeu je veux m'entraîner avec l'équipe compétition et tout, c'est ou les professionnels ou quoi. Et souvent, ouais, ça a été, il y a eu des moments un petit peu difficiles, ou même des moments un peu où tu te retrouves aussi face à toi-même, tu vois, à tes propres démons, tu vois, comment est-ce que tu gères telle ou telle situation de stress ou de, tu vois, parce que bon, après, ça, c'est plus le propre voyage.
Oui, c'est vrai.
Au voyage solitaire et tout, que tu connais très bien. Et du coup, non, c'est une super expérience que je souhaite à tout le monde et qui est hyper constructive, tu vois, sur
ouais. Mais moi j'adore là le mot que vous voyez là, le sincérité, le mot de la sincérité, c'est vraiment ça, en fait, voyager et aller vivre à l'étranger, parce que c'est pas la même chose quand tu voyages quelques jours ou quelques semaines que ce que la plupart des gens te disent, tu sais, quand tu leur dis ouais, moi je suis un nomade ou je voyage, ils disent ouais, moi aussi j'ai voyagé, et après le gars, en fait, il te raconte 2 semaines à un hôtel, tu vois, il y a rien de mal à ça, son expérience du voyage. Mais là, c'est vrai que ce qu'on fait référence, c'est plus à je m'arrache à ma tribu, je m'arrache à ma culture et je vais essayer d'en intégrer une autre. Tu vois, c'est vraiment il y a une sorte de déchirure que tu dois faire. Tu vois, il y a une partie de toi que tu dois abandonner pour laisser place à quelque chose de nouveau. Surtout quand tu vis longtemps dans les pays, comme là, c'est ton cas pour le Brésil, il y a une partie de toi que tu peux pas ramener, en fait. Tu vois, c'est que il faut accepter que tu morphes aussi un peu avec l'endroit où t'es et les gens avec qui t'es, tu vois.
Ok, ouais, l'adaptation, tu dois t'adapter,
quoi. Il y a une partie de toi qui doit être brésilienne si tu veux vivre au Brésil. C'est ça le truc. Et je pense que c'est commun à tous les voyages, surtout quand t'en fais plusieurs. Moi, j'ai eu cette chance-là, quoi, de vivre à des longues périodes, plusieurs années dans plusieurs pays différents. Et à chaque fois, il y a une partie de toi, en fait, qui change, tu vois, qui évolue, que tu découvres ou bien que tu dois créer, que tu dois réinventer, que ça soit quand tu apprends la langue, la manière de penser, la manière de communiquer, la manière de rire, des fois, elle change. Il y a plein de petites choses comme ça qui changent et qui font qu'elles s'ajoutent un peu à ton éventail de possibilités, ton vocabulaire en tant qu'être humain, tu vois, il est plus large, il est plus vaste. Si tu veux, la peinture que tu peux dessiner, elle a plus de couleurs. Mais pour chacune de ces nouvelles couleurs ajoutées, il y a un micro-trauma à chaque fois qui doit se faire. Donc toi, en plus de ça, il y avait le côté, c'est pour une académie d'arts martiaux.
Voilà.
Genre, le combat, quoi.
De bagarre, quoi.
La bagarre. Ouais,
c'est pour faire la bagarre, quoi.
De genre. Mais ouais, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est quelque chose à recommander. Et si jamais quelqu'un a l'expérience de faire un voyage, ne serait-ce que pour un mois ou quelque chose comme ça, c'est vrai qu'on en apprend énormément sur soi. Et puis, je pense que c'est là aussi, c'est très générateur d'idées créatrices, tu vois. C'est là, en fait, que tu arrives à avoir des idées que jamais t'aurais eu si t'étais resté en France. Bah là, typiquement, le camp, c'est ça. Si tu vas pas au Brésil, te rends compte qu'il n'y a pas de camp d'entraînement, jamais l'idée, elle va te venir, tu vois.
Ben, de toute façon, c'est, je pense, là, on parlait, tu vois, de sincérité. Je pense que tout part de là, finalement, tu vois, parce que depuis tout jeune, moi, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à entreprendre jeune? Parce qu'à la base, j'étais donc, à l'école, j'ai passé mon bac, j'avais été à l'université. À l'université, ça s'est pas très bien passé, mais ça s'est pas bien passé parce que justement, j'étais sincère avec moi-même, sincère avec l'environnement qui m'entourait, qui eux, finalement, étaient pas sincères avec moi, étaient pas, tu vois, c'était plein de comment dire ouais c'était plein de je sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'était pas sain, tu vois, comme environnement. Moi, ça, je le ressentais, je me reconnaissais pas là-dedans, et naturellement, en fait, je suis parti de là. Et le fait d'être parti de là, bah, j'ai eu une première expérience en entreprise qui a pas fonctionné, puis une deuxième, mais de la première, je m'étais construit, donc du coup, sur la deuxième, je me suis reconstruit encore sur d'autres choses, et ainsi de suite. En fait, c'est en étant sincère avec soi-même que finalement, on crée son propre chemin, et puis qu'on en arrive, tu vois, bah, par exemple, aujourd'hui, à essayer de vivre des arts martiaux, qui finalement, quand je regarde ma vie la durée, en fait, depuis le début, je suis fan de sport et d'arts martiaux. Mais c'est juste que, entre temps, je me suis un peu perdu sur la partie, en fait, je vais être un businessman, je veux tout niquer, je veux faire comme je disais tout à l'heure et tout, mais en fait, c'est pas moi, ça, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu par, comment dire, un peu comme, pour, comment dire, caché, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais un peu, ouais, c'est, je me suis transformé en ça, tu vois, avec ma scolarité, avec les choix de vie que j'ai fait, etc. Mais en fin de compte, à l'intérieur de moi, ce que je voulais depuis toujours, c'était être dans le sport et dans les arts martiaux. Enfin, j'étais petit, on allait, à l'époque, c'était le vidéoclub, on allait au vidéoclub, je voulais chaque semaine avoir les derniers films d'arts martiaux, asiatiques ou américains et tout qui sortaient. Dès qu'il y avait un truc d'arts martiaux, je voulais le voir, je le regardais deux ou trois fois dans le week-end. J'avais les cassettes de Bruce Lee, je les regardais en boucle. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement, tu vois. J'avais un cousin qui avait un nunchaku, son père il avait un sabre. Dès qu'on allait chez eux, je voulais avec le nunchaku et tout ça, ouais, tout. Enfin, et tu vois. Et en fait, ça, c'est la sincérité. Tu sais, j'étais un gamin, j'étais un enfant. J'avais 5, 6, 7 ans, tu vois. Ouais. C'était ça que ce vers quoi je suis allé naturellement. Et après, la vie, le chemin, le besoin de prouver certaines choses a fait que j'ai fait le choix de l'entreprise pour tout un tas de raisons. J'ai voulu être entrepreneur et faire plein d'argent avant tout le monde pour finalement des raisons qui sont superficielles, tu vois, qui sont pas sincères. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je pense qu'effectivement tout part de là et que depuis petit, on a tous ça en nous, tu vois. Quand on est petit, on est innocent, on va vers des choses naturellement. Et en fait, je pense que plus on perd ça et plus on se perd, en fait, finalement, tu vois, plus on se perd comme individu, quoi.
Est-ce que tu dirais que justement vivre une vie peut-être un peu plus pleine, plus épanouie, dans laquelle il y a quelque chose qui fait vraiment vibrer ton âme, est-ce que justement ce serait pas de retourner à cet état de l'enfance le plus vite possible, en fait, plus on s'en rapproche et plus on tend vers quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, en fait, de qui on devrait être.
Ah, complètement. Bah, c'est une vraie question philosophique, hein, à laquelle moi je pense avoir répondu en tout cas pour ce qui me concerne.
Ouais.
Et puis après, c'est clair que c'est difficile, hein, parce que comme on disait, tu vois, au début, bah, chacun a ses difficultés, comme je sais plus quel auteur disait, dans les yeux de chacun, une guerre se joue, tu vois, on a chacun notre guerre intérieure, tu vois, qui est construite de plein de choses, tu vois, notre environnement familial, social, etc. Enfin, voilà, chacun, dans les yeux de chacun se joue une guerre, mais après, je pense que si on arrive, tu vois, en tout cas, ah, parce que c'est même le fait d'être sincère avec toi-même, c'est pas si simple que ça, tu vois. Là, on en parle comme ça, mais c'est quelque chose de
c'est clair,
difficile. Nous, c'est un cheminement qu'on a fait, mais tu vois, finalement, je te parle de ce cheminement-là, mais c'est quelque chose de, enfin, ça, moi, ça m'a pris des années. Tu vois, par exemple, je te dis, là, vers 24 ans, j'ai eu ma prise de conscience un peu, tu vois, sur le monde et comment est-ce qu'on vit, comment est-ce que je pense que je pourrais être plus en paix avec moi-même, etc. Mais finalement, moi, j'avais des gens dans ma vie qui déjà à 15-16 ans étaient déjà dans cet état d'esprit-là. Et pourtant, ils étaient à côté de moi, c'était des amis et on se côtoyait régulièrement et tout. Ils étaient déjà dans cet état d'esprit-là. Et moi, j'étais dans un tout autre état d'esprit. Mais c'est personnel, quoi. Tu vois, c'est quelque chose. C'est un vrai truc. C'est vraiment personnel. La sincérité avec soi-même, c'est complètement différent de quand je dis la sincérité avec les autres. Tu vois, là, c'est encore autre chose, quoi. Sincérité avec les autres, c'est encore autre chose.
Et là, justement, est-ce que tu pointes du doigt quelque chose qui est absolument vrai, c'est que chacun a son timing, chacun a son rythme, et que même quand toi tu penses avoir trouvé quelque chose qui peut être utile et que tu souhaites le partager, c'est très difficile de convaincre quelqu'un qui lui-même ne fait pas cet effort par lui-même à l'intérieur. Tu vois, on peut pas prêcher en fait. C'est que comme
exactement. Tu
sais, les gens, exactement. Ils vont trouver ça à l'âge de 15 ans, d'autres ça ils vont le trouver à l'âge de 65 ans. Et d'autres vont jamais le trouver. Et c'est vrai que moi, sur ce point-là, j'ai fait beaucoup aussi d'efforts. Je t'en parlais déjà avant où, au moment où moi, j'ai commencé aussi un peu à m'éveiller sur la partie mouvement, mobilité, longévité du corps, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'essayer de le prêcher comme si j'avais trouvé le Graal, tu vois.
Et donc, c'est pour ça que c'est un peu le cas de tout le monde, surtout parce que, en fait, moi, je pense que c'est pour le cas pour toi aussi, c'est qu'on, pour nous, ça tombe sous le sens après. Quand moi, il y a beaucoup de choses finalement que j'ai eu dans ma prise de conscience à cette époque-là qui finalement quand j'ai réfléchi en fait c'est du bon sens, manger correctement, en fait oui, évidemment qu'il faut manger correctement, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'aurais pu penser toute ma vie le contraire en fait,
pourquoi je mange,
tu vois, c'est pas un kebab après. Et tu vois par exemple le mouvement, on a quand t'es venu ici, que t'es resté avec nous pendant un moment, on a beaucoup discuté sur le mouvement, et moi tu m'as ouvert les yeux sur un truc qui aujourd'hui pour moi c'est du bon sens, surtout qu'entre temps j'ai fait une certification en prépa physique pour les athlètes de MMA et autres sports, et le fait de tu sais les connexions nerveuses, c'est-à-dire de travailler sur le contrôle moteur plus que travailler sur le fait de vouloir s'assouplir, c'est-à-dire tu vois l'ancienne école des arts martiaux, et j'ai commencé par le karaté, c'était tu veux mettre un coup de pied, tu veux mettre un high kick, tu te mets en split, tu te mets en écart facial, tu restes 10 minutes jusqu'à temps que tu peux plus ramener les jambes, et puis c'est bon, tu vas avoir un écart facial. Et en fait quand toi tu m'expliquais non, en fait c'est une histoire de réseau nerveux, voilà, le fait de le faire avec discipline un petit peu tous les jours, etc., tu vas créer de la connexion nerveuse, de cette connexion nerveuse tu vas créer un meilleur contrôle moteur, et après avec le temps rajouter par-dessus de l'assouplissement, où là effectivement tu peux aller chercher, si c'est ton objectif, aller chercher de l'assouplissement en restant longtemps dans des positions d'assouplissement. Et en fait maintenant quand j'en parle, je me rends compte que pour plein de gens c'est pas du tout logique, enfin genre pour eux c'est ouais d'accord ok mais tu me saoules, tu vois. Alors qu'en fait, c'est évident, tu vois, quand j'y pense, maintenant, je dis, mais bien sûr qu'en fait, c'est comme ça. Tu vois. Et en fait, voilà, c'est ça. Et moi, ça m'a beaucoup, détendu sur justement le fait que quand j'ai eu ma prise de conscience, je voulais, voilà, tu vois, prêcher auprès de mes amis, auprès de ma famille, dire, non, mais regardez et tout, en fait. Je pense que faut plus respirer, faut plus se poser, faut manger, plus de végétaux, etc. Parce que c'est logique, machin. Et en fait, chacun va. Après tu peux en parler, tu vois. S'il y a une discussion, tu peux en parler. En fait, chacun va aller à sa vitesse, tu vois. Chacun va faire ses choix.
C'est un peu la malédiction du
du gourou, quoi. Tu sais, c'est le gars, tu viens de trouver quelque chose qui est super bien pour toi. Et c'est un peu ce qui se passe, tu vois, avec les véganes, les trucs comme ça, tu vois. C'est genre, j'ai trouvé un régime qui fonctionne pour moi, et ben je vais le vendre, en fait. Je vais le promouvoir comme si c'était quelque chose, et je vais le défendre avec ma vie, sans comprendre que de ton expérience de vie, ça peut être utile pour toi à ce moment-là de ta vie, là où pour quelqu'un d'autre, c'est complètement contre-productif, et ça peut même nuire à sa santé. Et qu'au final, il n'y a pas de vérité absolue.
Pas noir ou blanc, il y a beaucoup de gris, quoi. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça.
Il y a quelques clés, tu vois, qui semblent être plus utiles, comme tu le disais, peut-être, voilà, ralentir, arrêter d'obséder sur certains détails, essayer de manger un peu plus équilibré, qui est de la viande ou pas, chacun fait comme il veut. Voilà, moi, de mon point de vue, voilà, il y a quelques petites règles de bon sens, on va dire, qui semblent être les plus pérennes dans le temps. Genre, ok, l'être humain a besoin de dormir, a besoin de s'hydrater, a besoin de manger de temps en temps, pas tout le temps, et il a besoin de mouvement. Tu vois, ça, on peut dire, ok, ça semble être logique. Après, le reste, tu peux remettre ça en question, mais tous les jours de ta vie, en fait.
Ouais, nuancé, et puis toi-même, nuancé. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, je m'étais rendu compte, parce que j'avais fait une petite formation de naturopathie, et je m'étais beaucoup intéressé au corps humain, etc. Puis en même temps, je lisais de la philo, etc. J'ai un vrai éveil quoi qui s'est passé à cette période, et je me suis posé, en fait j'avais imaginé ça comme une table de mixage, tu vois, en me disant bah en fait il y a, on va dire, 5 curseurs, tu vois, le sommeil, l'alimentation, le fait d'avoir une activité physique régulière, d'avoir aussi une activité sociale, tu vois, sortir, voir des gens, avoir des attaches, tu vois, avoir des discussions, avoir des amis, avoir voilà, sociale et tout. Et en fin de compte, c'est pas d'être au maximum dans tout, parce que tu peux pas être parfait dans en tout point, tu vois. Il faut c'est juste voilà, c'est comme une table de mixage quoi, tes curseurs, tu les ajustes au fur et à mesure du temps, et en fait tu passes la vie à ajuster ces curseurs et essayer de trouver un équilibre.
Ouais, et comme tu dis, le détail important là dans la phrase pour moi, c'est tu passes ta vie à le faire. C'est pas une fois que tu l'as atteint, c'est fini. Moi
j'en exactement. Exactement.
J'ai encore de temps en temps ce genre de commentaires. C'est combien de temps ça va me prendre pour, par exemple, avoir mon deep squat, avoir ma flexion de hanche complète. Sous-entendu, ok, bah je fais ça 6 mois, je l'ai, et après je m'arrête. Non, c'est une aventure.
Oh, c'est une directrice, quoi.
Ouais. Enfin, tu peux pas ne pas le faire. Une fois que t'as compris que ça a de l'intérêt pour ton corps ou pour ta santé mentale, émotionnelle ou peu importe, et ben en fait, c'est une aventure à vie, comme toutes les choses en fait. Tout est long terme et tout est. Y a rien qui s'arrête. Tu vois, moi, la mobilité, je la fais tout le temps. Pas pour spécialement gagner là où j'ai des gros manques. Il y a plus trop d'endroits où j'ai des gros manques. J'ai plein d'endroits où j'ai des manques, mais voilà, je sais que ça prend un peu plus de temps. Mais c'est surtout pour maintenir déjà ce que j'ai gagné aussi, tu vois. Et c'est pareil avec l'exercice régulier de la méditation, de la respiration, etc. C'est pour maintenir déjà les choses qui fonctionnent, tu vois. Et après, petit à petit, s'améliorer. Mais
il y a des phases où tu vas le faire plus, des phases où tu vas moins le faire.
Vraiment être indulgent et s'écouter, voilà, quand t'es en plein milieu de, t'as plein de trucs qui se passent dans ta vie, évidemment que tu vas peut-être, voilà, faire baisser le curseur de ça ici, l'autre curseur il va augmenter, etc., etc. Et en fait, tu mixes tout le temps, en fait. C'est jamais figé. Et c'est exactement. Ça ce que moi j'en retire de toutes ces expériences, des voyages, etc., c'est que, voilà, c'est des chapitres en fait de la vie. T'en ouvres un, t'en fermes un. Il y a un nouveau cycle qui commence, l'autre il se ferme, et qu'il faut être complètement dans un des thèmes là dont on parlait avec Steph, c'est ça aussi. C'était le lâcher prise en fait. C'est s'écouter, avancer et puis y aller à tâtons quoi. Tu vois, tu fais quelques expériences, tu chopes quelques outils. Là, t'as une conversation avec un ami qui te parle d'un bouquin, tu le lis, peut-être ça t'inspire pour prendre telle ou telle décision. Mais cette décision, ça se trouve dans un an, tu vas la remettre en question et y a pas de mal à ça. Et c'est comme ça qu'on avance quoi.
Complètement, complètement.
C'est tout, c'est que dans ce sens-là, tu vois. Et toi, dans cette optique un peu là de, ben justement, de perpétuel questionnement, etc., est-ce que là, cette année, il y a eu, avec le Covid, je sais que ça a été un événement qui a marqué beaucoup les gens, que ça soit dans leur business, etc., est-ce que toi, de ton côté, cette période-là, t'a permis d'adresser une des questions que t'avais pas pris le temps d'adresser auparavant, et est-ce que t'as résolu un problème? Voilà, est-ce que tu peux partager un peu avec les gens une récente épiphanie que tu as pu avoir?
Après, moi, pendant le Covid, j'ai essayé d'en profiter parce qu'ayant justement cette fibre un peu d'entrepreneur, tu vois, dès que je produis pas, ça me frustre en fait. Ouais. Je suis pas bien. Et là, du coup, c'était complètement le cas. Donc, du coup, là pour le coup j'ai essayé de me concentrer sur ce que je pouvais finalement hein, par rapport au MMA camp. C'était complètement bloqué parce que les frontières étaient fermées. On pouvait s'entraîner, mais c'était quand même assez limité. On s'entraînait en petit groupe, on pouvait pas aller à l'académie, donc on s'entraînait chez Chocolat, si on avait mis les tatamis chez elle. Donc c'était un petit peu, voilà, c'était un peu du bricolage. Et j'en ai profité pour essayer de faire une formation de MMA pour les débutants. Du coup, ça m'a permis, voilà, d'apprendre un peu plus sur le montage vidéo. C'est quelque chose qui m'intéressait, donc de mettre un peu là-dessus. J'ai fait aussi la certification de préparateur physique. Et là, du coup, ça a été un peu une révélation, parce que finalement, quand on s'est connu l'année dernière, tu vois, j'avais déjà quelques notions via le BP que j'avais passé en France, et puis toute mon expérience de combattant sur comment est-ce qu'on se prépare physiquement. J'avais vu déjà pas mal de façons de faire, et moi-même, j'ai quand même acheté déjà de plus de presque maintenant 15 ans d'arts martiaux en pratique, donc un peu d'expérience. Mais là, du coup, ça m'avait quand je t'ai rencontré, en fait, ça m'a donné envie de structurer plus tout ça, et surtout parce que après j'ai eu à charge les gens à l'académie pour faire la préparation physique, en tout cas la partie compétition, les compétiteurs, et voilà, je voulais bien faire les choses, et du coup j'ai eu envie de structurer un peu tout ça, et l'opportunité de faire une certification via un préparateur physique en France. Rémi Consulting, pour pas le nommer, Physiosport, Rémi Physiosport. Et j'ai fait ça, ça m'a bien plu. Et après, au niveau plus personnel, c'est une expérience que j'ai vécue un peu difficilement, parce que c'est São Paulo, c'est une grosse ville, tu vois, c'est comme Paris, donc comme Quand on a eu presque un peu plus de 4 mois de confinement, c'est-à-dire on pouvait sortir. De toute façon, les gens ont mis le masque assez rapidement ici, donc on pouvait sortir, mais tous les commerces tous les restaurants, les petits bars, etc., étaient fermés. Il y a vraiment pas du tout de possibilité de sortir le soir, uniquement les supermarchés. Et c'est vrai qu'ici, on a une vie qui est les gens sont beaucoup plus sortent beaucoup plus, tu vois, que en tout cas moi ce que j'ai connu en banlieue parisienne, tu vois, il y a plein de petits bars ou de petits endroits où tu peux aller manger une brochette, poser en terrasse, manger un truc, regarder l'UFC ou j'en sais rien, tu vois, faire
la vie,
tu vois, sortir, quoi, être dehors, avoir une vie dehors. Et ouais, ça je l'ai pas hyper bien vécu, je t'avoue, je pense comme tout le monde, hein, de toute façon. Donc du coup j'ai essayé de me raccrocher au maximum à ce que je pouvais créer, quoi. Donc du coup ça a été là la formation et donc faire cette certification de préparateur physique. Et de cette expérience qui a été difficile est né le projet avec le MES là de lever la partie du bas. Donc vraiment là ça m'a reboosté là en fin d'année là, à partir du mois de septembre, quand on a commencé à en discuter. Voilà, d'avoir ce projet, tu vois, du coup là c'est cool, là je suis content, on est dans une période hyper riche là, hyper riche, et on a plein de projets,
c'est trop bien,
c'est une bonne chose, quoi.
C'est trop bien. Et puis là en plus, tu vois, ça montre que voilà, même d'un événement extérieur qui semble des fois pas très favorable, tu peux toujours en extraire quelque chose de positif, si toi aussi tu changes ta perception, tu te sors un peu les doigts du cul, tu vois, tu essaies d'aller de l'avant.
Après, c'est comme on disait tout à l'heure avec l'échec, tu vois, finalement, ça n'existe pas vraiment l'échec, quoi. Tu vois, c'est à partir du moment où t'échoues, c'est déjà que t'as tenté de faire quelque chose.
Ah oui.
Donc t'as tenté de faire quelque chose, donc c'est déjà, t'as eu l'envie de faire quelque chose, donc t'as, comme dirait Jacques Brel, t'as eu le talent de faire quelque chose, tu vois. Et de ce talent-là, tu vas en créer un autre, et ainsi de suite. En fait, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose, on a le talent de la faire, cette chose-là. Tu vois, c'est pas une question de. Enfin, c'est qu'une question, comme tu dis, de point de vue, tu vois.
Absolument. Tu es en mouvement et t'avances, quoi, tout simplement. Et après, les choses se déroulent, tu vois. C'est faut faire aussi confiance un peu à la vie de manière générale, tu vois. Il n'y a pas vraiment un endroit où, tu sais, tout va s'arrêter, ça va s'immobiliser, c'est la catastrophe, c'est la fatalité. Non, il y a toujours moyen de bouger et d'avancer, de faire quelque chose, tu vois.
Exactement.
Et toi, justement, dans cette, parce que là, tu me parles beaucoup aussi d'entrepreneuriat, et c'est vrai qu'à t'entendre, ça semble assez simple de prendre des décisions et d'aller vite. Est-ce que tu aurais, moi le but de ces podcasts, c'est aussi de donner des outils aux gens, que ça soit par des outils de pensée ou des outils physiques, spirituels. Est-ce que toi tu conseillerais, comme je sais qu'on en parlait beaucoup, tu conseillerais des documentaires, des films, des livres qui toi t'ont permis aussi d'avancer un peu plus rapidement, d'avoir des leçons qui t'ont vraiment permis de faire des transformations sur ton cœur, sur ton corps, sur ton esprit. Est-ce que tu as quelque chose là qui te vient en tête? Moi, je sais que tu me parlais... Attends, tu sais quoi? Je vais t'aiguiller un peu là-dessus et après, tu pourras répondre. Excuse-moi. Tu me parlais d'un documentaire, je crois, ou d'un film. Et je cherche le nom, mais depuis ce moment...
La Belle Verte.
Comment?
La Belle Verte.
Attends.
De Colin Serrault.
Est-ce que c'est celui où tu me disais qu'on voyait des gens justement faire du mouvement et tout, un peu dans la nature et tout? Non?
Ouais, carrément. Attends, bah en fait, ça s'appelle La Belle Verte, c'est un film de Colin Serrault.
J'ai enfin la réponse.
On l'avait pas regardé ensemble. Ah non, je te l'avais envoyé, je l'ai regardé avec Juliana en portugais ici, parce que du coup, ici, à chaque fois, pour trouver les films en portugais, enfin, en sous-titré portugais, c'est une galère. Ouais. Et du coup, j'ai finalement réussi à le trouver, ouais, carrément. Attends, bah, en fait, ouais.
Du moment où on en parlait, mais je crois qu'on était au, tu sais, le petit café là, à côté de l'académie. Et on prenait le café du matin. Oh là, j'ai des frissons, là, je vais pleurer. Oui, on se dit sous petit souvenir. Cette conversation du matin avec avant l'entraînement. Et ouais, je crois que tu me parlais de ça, je sais plus dans quelle conversation. Et tu me disais, c'était quoi? C'était un film ou un documentaire? Alors, c'était quoi?
C'était un film. Ben, en fait, quasiment toute la filmographie de Colin Serrault, hein, c'est à voir. Il y a ce film-là, donc La Belle Verte, qui est sur, en fait, une planète imaginaire. Bah, c'est un vieux film, hein, je crois qu'il est de 97 ou 96, donc c'est vraiment un vieux truc. Et c'est un peu une critique, tu vois, sur la société, française, tu vois, de début, fin 90, début 2000, tu vois, avec, tu vois, société hyper individualiste, où en fait, il y a des gens qui arrivent, qui viennent sur Terre, ils sont comme nous, sauf qu'ils, en fait, ils sont dans le futur. Et eux, en fait, dans le futur, ils vivent jusqu'à je sais pas combien d'années, et en fait, ils s'alimentent qu'avec des bonnes choses. Tous les jours, ils font du mouvement, etc. Et en fait, ils viennent sur Terre pour parce que c'est pour en fait chaque année, ils envoient des élus sur telle ou telle planète pour venir donner un coup de main, en gros, quoi, tu vois, un peu en secret, quoi. Et donc là, il y a ce film-là. Après, il y a un autre film aussi qui s'appelle La Crise. Là, c'était plus une critique sur les lobbies pharmaceutiques et tu vois la consommation de médicaments, tu vois, dans nos dans la société occidentale. Pareil de Colin Serrault avec un Vincent Lindon, hyper cool. Ouais, à l'époque, c'est cette filmographie là d'ailleurs que j'ai découvert via un de mes meilleurs amis Emmanuel et ses parents surtout qui sont en fait de Nantes. Et tu vois que tout à l'heure je te disais justement, en fait, c'est des gens finalement que j'ai rencontré à l'époque avec le skate, donc ça fait que je connais depuis des années, tu vois, depuis j'avais 14-15 ans, et pour autant des gens qui avaient une super influence sur moi, qui avaient une très bonne influence sur moi, mais que j'écoutais pas finalement, enfin tu vois, sur à cette époque-là, s'il y a plein de gens qui avaient une bonne influence sur moi, mais que j'avais pas forcément que je voyais au quotidien, on se fréquentait régulièrement et tout, mais j'avais pas ouvert les yeux encore, tu vois, sur je m'étais pas encore éveillé. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu sais, on dit souvent ouais, c'est ton environnement qui fait ce que t'es et tout. Oui et non, parce qu'en fait ça dépend surtout de toi, tu vois. Ouais. Ça dépend surtout de tu peux très bien avoir un très bon environnement et pas du tout faire les bons choix et jamais te rendre compte ou très tard, tu vois. Et le contraire, et des gens qui ont un environnement hyper toxique et finalement vont s'en émanciper super rapidement et tout, tu vois. Je pense pas qu'il y ait vraiment de règles définies. Ouais. Et donc pour en revenir à ta question, moi je pense que c'est déjà faire un cheminement vers une sincérité personnelle, tu vois.
Ouais.
Se regarder réellement tel qu'on est avec ses qualités, ses défauts et tout. Et pour ça, je pense que le voyage ça aide beaucoup. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment le premier, ce serait de voyager, quoi. Déjà, vraiment. Et comme on disait, tu vois, le voyage, si possible, le plus improvisé possible, quoi, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Le plus, ouais, tu vois, en lâcher prise, quoi, tu vois. C'est-à-dire un voyage où, tu vois, essayer de prévoir le le moins possible.
À cadeau, on y va.
Vraiment, se laisser complètement guider par le destin, par le Mektoub.
Exactement. Il n'y a pas grand chose d'effrayant.
Surtout aujourd'hui, tu sais, dans nos sociétés, on a Internet, on a le Wi-Fi. Tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. Les gens, on m'envoie des messages sur Instagram, sur Globefighter. Ouais, mais du coup, franchement, chapeau et tout. Parti tout seul comme ça. Bon, après, c'est vrai que tout seul, c'est encore autre chose, tu vois. Mais partir, je veux dire, aujourd'hui, même faire le tour du monde, il y a rien d'exceptionnel. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, à partir du moment où t'as ton téléphone, t'as le Wi-Fi, Airbnb, hostelworld.com, c'est terminé. Hein. Tu vas t'arriver à l'aéroport, t'as le Wi-Fi. T'achètes ton billet d'avion et puis c'est bon, quoi. Je veux dire, moi, j'ai un oncle dans les années 70 qui est parti en stop en Afghanistan. Là, ouais. Là, d'accord. Là, c'est... Là, lui... Lui, il est déterminé, tu vois. Mais là, c'est de la vraie baroude, la vraie, tu vois.
Là, c'est un vrai. Garde mon chapeau.
Tu vois, tous les gars dans les années 70 qui sont partis s'expatrier, enfin, qui, au final, sont pas partis s'expatrier, ils sont partis barouder jusqu'en Inde et sont restés bloqués là-bas. Il y en a pas mal. Et bah, eux, c'était des vrais baroudeurs, tu vois. Mais nous, aujourd'hui, enfin, on est des baroudeurs, ok. Quand tu voyages tout seul et tout, c'est de la baroude, ok. Mais c'est pas non plus un truc exceptionnel, quoi.
C'est d'une simplicité. Là, comme tu disais, avec Internet, le Wi-Fi, les applications. Et puis aussi, moi, ce que je dis souvent, il y a peu de gens qui me croient. Pour pas mal d'endroits dans le monde, si le point de départ c'est la France, ça revient moins cher d'y vivre, tu vois. Genre là, moi, je reviens de 6 mois en Thaïlande. 6 mois, le loyer, il est à 270 euros. T'as une maison pour toi tout seul. Tu rajoutes 100 balles, t'as ton scooter par mois, tu vois. Donc déjà, pour 400 euros, t'as loyer et le scoot. Tu rajoutes 300 euros de bouffe si tu veux manger comme moi tous les jours à l'extérieur, bien vegan, etc. Je veux dire, ça te coûte 700 euros. C'est pas un loyer à Paris.
Ouais, non, c'est clair. Après, faut, là, en fait, c'est l'endroit, quoi. C'est ça, c'est rationaliser les choses, tu vois. Moi, ce qui a été le déclencheur aussi pour le tour du monde, c'est que, à un moment donné, je me suis dit, ouais, bah, c'est un rêve, tu vois. Le tour du monde des arts martiaux, j'avais pas entendu, dire, tu vois, que des gens les fait avant. S'il y avait Fight Quest, là, il y avait un truc aux États-Unis, mais tu vois, c'est un truc à gros budget, déjà. Ils avaient été, dans différents pays, tester des arts martiaux et tout. C'était un combattant de MMA et un militaire, je crois. Ça, ils avaient fait ça dans les années 2010. Donc, il y avait que ça, tu vois, à l'époque. Je me suis dit, ok, bon, bah, c'est un rêve. Et je me rappelle, c'était au moment où je passais mon BP à Montpellier. Et j'étais en coloc avec, enfin, je vivais chez une copine, là, qui faisait ses études là-bas. Et je m'étais dit, bon, vas-y, on va tout mettre sur papier. Et concrètement, voilà, poser les choses, voir combien ça coûte. Parce que, ok, c'est un rêve, ok, on peut dire c'est inaccessible, mais on va voir concrètement combien ça coûte, tu vois. Et du coup, je m'étais renseigné, j'ai fait un devis pour le billet d'avion tour du monde. Ouais. J'ai contacté les académies par mail, donc via un site qui s'appelle Tapology. Tu sais, c'est comme Sherdog qui référence tous les combattants avec leur palmarès et tout, mais ça référence aussi les académies. J'avais contacté les académies, j'avais fait une estimation, tu vois, de combien ça coûterait pour vivre, tu vois, dans chaque pays. Et voilà, j'ai fait un total au final. J'ai dit, voilà, bah ça coûtera tant. Comment est-ce que je peux faire là pour débloquer cet argent? Est-ce que j'en ai déjà une partie? Est-ce que là, en me faisant licencier de mon boulot, parce qu'à cette époque-là, j'étais redevenu salarié, mais qu'est-ce qu'en me faisant licencier, je pourrais avoir suffisamment aussi pour faire tout ça et tout? Et au final, quand tu rationalises le truc, bah c'est pas exceptionnel, quoi. Tu vois, c'est pas oui, bah oui, c'est faisable en fait. En fait, je les ai les sous, en fait, tu vois. Et surtout, rationaliser, tu vois, maintenant que je vis au Brésil. Je me rends compte aussi que, enfin, ça c'était aussi une chose assez importante pour moi, de me rendre compte qu'ici, tu vois, bah toi t'as rencontré en plus Breno, t'as rencontré Chocolat, t'as rencontré, tu vois, tous mes potes ici qui viennent du Nord-Est ou qui viennent de Manaus et qui ont quitté chez eux pour vivre un rêve de devenir combattant en venant vivre ici à Saint-Paul parce que c'est là qu'il y a les opportunités, c'est là qu'il y a les meilleures académies, les meilleurs championnats et tout. Et eux, tu vois, même en travaillant ils pourront pas mettre de côté suffisamment pour pouvoir partir en vacances ou pouvoir avoir l'idée d'aller à l'étranger, tu vois, juste pour faire un trip et tout. Et même s'ils avaient l'idée, ils ont pas forcément la possibilité en termes administratifs, c'est-à-dire en termes de visa, etc. Tu vois. Et le Brésil, c'est pas le pire. T'as des endroits, par exemple en Thaïlande ou même en Chine ou mais dans plein d'endroits dans le monde, en Afrique, dans plein d'endroits en Inde, etc. où t'as des gens qui même s'ils avaient les sous, ils pourraient pas le faire, tu vois. Ouais. Parce que administrativement, c'est pas possible, etc. Et quand tu rationalises, tu dis, mais en fait, je suis un privilégié de ouf, quoi. En fait, de pouvoir me permettre, c'est-à-dire que, tu vois, ce que tu viens de dire, le fait d'aller en Thaïlande, etc., de, bah, que ça coûterait moins que, un loyer à Paris, alors que, à Paris, t'as ton loyer à payer, plus, tes impôts, plus, tes transports, plus ta bouffe, plus, etc., tu vois. Donc, c'est pas 700 euros, quoi. C'est plus que ça. C'est deux fois ça, quoi. Et, il y a plein de gens, finalement, qui pourraient se le permettre. Et, financièrement et administrativement, tu vois. C'est-à-dire qu'administrativement, on peut tout se permettre. Parce qu'on a un passeport rouge, on peut aller partout dans le monde.
C'est clair.
Ça, c'est un truc aussi que je me suis rendu compte avec le tour du monde, c'est qu'on a un privilège, bah, avec notre passeport, quoi. Juste avec notre passeport. En fait, juste le fait d'être né en France, c'est un privilège, déjà, en fait. Tu vois.
Ouais, c'est clair. Et c'est quelque chose, c'est tellement important, ce point-là. Parce que même moi, l'an dernier, quand on était, bah, tu sais, je devais accompagner, Chocolat à Vegas, là, pour l'événement, au Dana White, quand on a pris là, et je me rappelle, moi déjà, regarde, en plus j'étais venu, bah, avec ton invitation là pour faire un stage, et après sur place, comme on a grave connecté, etc., j'ai décidé de rester. Déjà ça, c'est un luxe, tu vois. Le mec peut prendre un billet d'avion, et comme il a son passeport français, il peut rester dans ce pays, parce que au pire, il peut être rapatrié, il peut rentrer chez lui quand il veut, tu vois. Et en plus de ça, comme la vie elle est moins chère, je peux aussi me permettre, bah, de rester sur place et d'avoir assez pour me payer à manger, tu vois. Et donc il y a ça. Et après, tu vois, un mois et demi, un truc comme ça après, bah, le maître et Chocolat me proposent d'accompagner Chocolat dans la cage, quoi, d'aller à Vegas. Moi, immédiatement, ma seule préoccupation, c'est ouais, bah, j'ai juste acheter un billet d'avion, c'est tout, tu vois. Alors quelle
est... parce que toi, t'as juste aller sur un site,
ouais,
de faire ton visa en 15 minutes. Payer $20 et c'est réglé. Alors que eux ici, c'est bah non, faut faire payer. Je crois que c'est l'équivalent de 500 euros. Donc pour eux, c'est deux salaires, tu vois, c'est deux mois de salaire. Et en plus, tu payes tes deux mois de salaire pour au final faire toute une espèce de sélection, passer en entretien individuel avec quelqu'un de l'ambassade et de. T'as une chance sur deux de pas avoir le visa, tu vois. Si tu n'arrives pas à prouver que t'as suffisamment de raisons de rentrer, en gros, c'est ça l'histoire, quoi. Et bah t'as pas le visa. Et tu vois, là, c'est pour l'international, mais même au niveau national, tu vois, par exemple, là, on a Manuel, là, qui est en ce moment, Marignan, qui va combattre la semaine prochaine. Bah, non, même pas, là, c'est mercredi le combat, là. Mercredi à Rio, au Taora MMA, c'est un gros événement organisé par la Team Nogueira, là. Et, tu vois, lui, là, actuellement, il fait partie des meilleurs 61 kilos du Brésil, concrètement, tu vois. Il vient du fin fond du Marignan. Marignan, c'est un état dans le nord-est, au-dessus de Bahia. Et tu vois, là, il vient pour faire ses camps ici, parce que c'est aussi le MES qui lui trouve les opportunités de combat. Mais à chaque fois, avant le combat, il vient un mois ici, tu vois, comme Bouddha, il vient un mois ici pour faire son camp, et après, t'as kiffé le combat, et il rentre chez lui. Et tu vois, là, pour financer son voyage, donc même pas international, hein, juste là, du Marignan pour venir ici, pour vivre un mois chez Breno en coloc dans la chambre, et après aller faire le combat, après remonter, il organise une feijoada dans sa ville, tu vois, où il y a tous les gens qui vont aller manger, payer 10-15 reais pour manger la feijoada, et tous les sous, ils sont récoltés pour payer tout ça, tu vois.
Incroyable.
Et c'est, tu vois, c'est ça, quand tu regardes ça, tu dis, bah en fait, moi, bah, c'est trop facile, en fait, quoi. Ouais, tu vois, c'est pour ça, maintenant, l'excuse de en France, ouais, mais parce que on peut pas parce que on n'a pas le temps machin, mais si, en fait on peut s'adapter. Bien sûr que il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres, etc., mais en France on est quand même privilégié, tu vois, sur bien des aspects, quoi.
Par rapport à ce genre de personnes, c'est sûr. Moi je me rappelle déjà l'an dernier l'histoire qui m'avait fait rire et rire un peu à moitié, c'était, tu sais, quand je parlais avec Kai Kai, un des combattants là du camp, qui disait, je crois que c'était lui qui était venu aussi de Manaus, un truc comme ça, à l'âge de 21 ans, jusqu'à...
Okay, il est Pernambouco, il est du Nord-Est aussi, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et il me disait, il avait jamais vu du chocolat, en fait, avant ça, tu vois, lui, il vivait, ouais. Et c'est le mec, il a un physique, j'ai jamais vu ça, c'est Hulk, le gars, il a le physique parfait, en fait, il est...
Ouais. Là, et tu vois, il a combattu ce week-end, là, il a combattu dans la catégorie supérieure, carrément, 77 kilos, ouais. Et le mec était vraiment, bah, pour le coup, on s'attendait pas à ça, mais il était vraiment plus lourd, tu vois.
D'accord.
Vraiment plus lourd. Bah, Kaka, il a fait 3 rounds avec lui. Il a perdu la décision, tu vois, décision partagée. Mais ah, c'était
vraiment plus.
C'est une force de la nature. Parce que, bah ouais, non, lui, en fait, quand il vivait à Pernambuco, là, ils étaient dans une fazenda, tu vois. Il vivait à la ferme. Donc, il s'occupait des chevaux et il mangeait que du poisson qu'il avait pêché dans la rivière et des fruits, tu vois, du jardin, etc. Et,
Les gars, j'ai jamais vu un physique comme ça. Il est, ça se sent, c'est, tu sais, le physique du fermier, quoi, naturel.
C'est, bah, tu sais, c'est comme Boakao, tu vois, il me fait un peu penser à Boakao dans l'état de, tu vois, au niveau physique. Boakao, ça se voyait qu'à l'époque, quand il a explosé dans le Muay, c'était, tu vois, il avait vraiment, déjà, il avait la technique, etc., des Nakmoy et de l'époque, parce que, bah, voilà, il s'entraînait dans un gros gym, et puis il avait, je pense, il était fait pour ça aussi. Mais physiquement, il avait un truc aussi au-dessus, tu vois. Et c'est les mecs qui sont durs.
Bah oui.
Donc,
ça.
Mais justement, toi, c'était quelque chose aussi, c'était un thème, souvent dans nos conversations, là, le retour un peu à la nature. Bah, tu sais que c'est toi qui m'a, ah, c'est marrant, là, j'étais en Suisse, le mois dernier, et j'ai parlé de permaculture à une amie brésilienne, justement. Uh-huh. Exporté à une meuf de Rio et elle connaissait pas la permaculture. Et ben moi je me disais, ouais, ben c'est toi qui m'a présenté et qui m'a un peu introduit à ça, tu vois. Et depuis, ouais, j'ai grave accroché, je me suis renseigné et ça fait partie aussi un peu de cette recherche permanente de vivre un peu plus en paix, un peu plus reconnecté et plus proche de la nature. Et moi, c'était aussi quelque chose là quand j'étais au camp l'an dernier, c'était de voir tous ces mecs là qui me racontaient leurs histoires de j'allais à l'école en pirogue. J'ai jamais mangé de chocolat juste avant mes 21 ans, j'ai mangé que des plantes, et tu te dis, mais attends, mais c'est, il y a quelque chose, quoi, on devrait se rapprocher de ça, c'est pas possible. Tout le monde
est encore une fois, c'est du bon sens, tu vois. Ouais. Ça, encore une fois, c'est, il y a rien de, tu vois, le fait de, il faut plus se parler, prendre plus le temps, se reconnecter à la nature et tout, en fait, il y a rien d'exceptionnel. Enfin, je veux dire, nous, c'est juste nous, dans notre génération, parce que là, on a eu un rebond, tu vois, entre 2000 et 2010 avec Internet, qui a complètement bouleversé notre façon de vivre et de communiquer, etc. Mais, je veux dire, nos grands-parents, ou un truc que je dis souvent, tu vois, c'est la vie, la différence entre notre vie à nous et la vie de nos grands-parents, c'est deux planètes différentes. Alors que la différence entre nos grands-parents et leurs propres grands-parents, qui étaient, bah, il y a le même laps de temps entre les deux, tu vois, bah, c'est pas si différent, tu vois. Ouais. Eux, leur vie, elles étaient pas si différentes. Alors que nous, notre vie, c'est aucun rapport, quoi.
Même
et ça, ouais. tu vois comment, par exemple, nos parents, ils sont perdus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les Facebook, etc., tu vois. Tu vois ça, quoi. Il y a vraiment un bon, en avant qui est abusé, quoi, comme la création de l'électricité tu vois à la fin du 19e ou début du 20e, je sais plus, qui a complètement bouleversé aussi. C'est du jour au lendemain, t'as de la lumière chez toi, quoi. Avant, les gens, ils vivaient au rythme du jour et la nuit, et du jour au lendemain, bah non, bah en fait maintenant on a tous l'électricité chez nous. Je veux dire, pour nous, c'est évident que il fait nuit, bah t'allumes la lumière et tu vas manger les 20h, alors qu'avant c'était, bah non, c'est pas quelque chose d'évident. Les gens, ils dormaient quand il fait nuit, ils se réveillaient quand il faisait jour, quoi. C'est ça, en fait, aussi, tu vois. Je pense qu'il y a, enfin, pour revenir à ta question de mes conseils, tu vois, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à tout ça, je pense qu'à un moment donné aussi, c'est simplement donner du sens, tu vois. D'ailleurs, il y a un super film de Cyril Dion, je crois, qu'il a réalisé avec Mélanie Laurent, qui s'appelle Enquête de sens.
Ouais.
Qui traite de ça. Il y a, bah, pareil, le plus vieux, mais les films de Colin Serrault, ou même, tu vois, en termes de lecture, tu lis Paolo Coelho, tu lis Pierre Rabhi qui est le précurseur de la permaculture plus encore, tu vois, plus poussé au niveau écologique, c'est-à-dire, tu vois, de récupération de houmous, etc., pour faire la permaculture et tout. Et c'est aussi un philosophe à côté, donc il a écrit plein de bouquins et tout, notamment La sobriété heureuse, qui est un super bouquin. Et tu vois, finalement, il traite de ça, tu vois, c'est retrouver du sens, en fait, quoi. Retrouver, ouais, du sens et s'écouter. Donc ça passe, tu vois, encore une fois, avec la sincérité que tu vas t'apporter à toi-même, tu vois, la crédibilité, la sincérité que tu vas t'accorder, et en t'écoutant, tu trouves des réponses, et après, ça vient petit à petit. Tu vois, il n'y a rien qui vient comme ça, du jour au lendemain, comme on parlait tout à l'heure de mobilité. En fait, tout est lié, tu vois. À partir du moment où tu t'écoutes, tu vas faire un choix qui va être un peu différent de ce que tu aurais fait normalement. De ce choix-là va naître une conséquence. De cette conséquence, tu vas faire un autre choix qui va t'amener vers d'autres choses, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu te construis.
Ouais, c'est clair, les gens parlent souvent du côté négatif, tu sais, du cercle vicieux de, bah, là, je sais pas, je mange quelque chose de gras, bah, ça me pousse, évidemment, hormonalement, je suis déséquilibré, j'ai encore plus envie de sucre, donc je recommence, etc. Mais l'opposé est tout aussi vrai. Tu dors tôt, tu te lèves tôt, tu fais ta méditation, ta mobilité, un peu de mouvement, tu bois de l'eau, tu bosses bien le matin, tu recommences le lendemain, et puis, en fait, ça fait que se nourrir aussi, tu vois. Et ce gap, cette différence entre les gens qui semblent avoir une vie un peu plus ordonnée, dans laquelle ils sont un peu plus en conscience et connectés à eux-mêmes, comme tu le dis, le bon, il est pas énorme. C'est simplement des micro-actions, tu vois, des petites actions accumulées et qui, comme tu le dis, l'une nourrit la suivante, qui nourrit la suivante.
Ouais, et puis avec légèreté, tu vois. Parce que si souvent, j'ai le sentiment que, enfin, moi-même, d'ailleurs, c'était mon cas, tu vois, au départ, quand on veut faire ce bond vers, comment dire, le milieu de vie plus saine, on veut, tu vois, c'est encore une fois, quand on veut que ce soit parfait et tu vois, à partir du moment où tu fais un écart, ah bah putain, ouais, non, j'ai fait un écart à toi. Alors qu'en fait, non, faut le prendre aussi avec légèreté, c'est pas grave, c'est pas parce que, tu vois, c'est de prendre conscience d'un global, tu vois, d'une globalité. Après, cette globalité, je veux dire, quand moi, par exemple, je suis pas végétarien, je suis pas végétarien, et encore moins ici au Brésil. C'est plus que je suis arrivé ici, vraiment compliqué. Mais tu vois, je sais que, voilà, bah, il faut essayer de consommer plus en conscience, c'est-à-dire, manger un peu moins de viande, ou en tout cas, quand tu manges de la viande, manger de la viande, essayer d'en connaître la provenance, ou tu vois, au maximum, de contrôler la provenance de ce que tu manges, essayer de pas manger des choses qui sont déjà préparées, tu vois, à l'avance, tu vois, cuisiner, prendre le temps de cuisiner, etc. Et c'est juste ça, c'est juste des notions globales. Après, ça n'empêche que si, par exemple, tu vois, là, ce week-end, on est parti à la plage avec ma maman, ma belle-mère, ma copine et sa fille, bah on a fait un barbecue, et puis après on en a refait un autre le lendemain. Bah oui, c'est clair que pour mon corps c'était pas le top, mais bah après c'est pas grave, c'est l'instant qui était bon. Et puis
absolument, il y a des vies aussi qui méritent ça, tu vois. Faut pas, moi c'est ce que je dis aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, de comment je m'alimente, etc., et moi j'évite de donner d'en parler spécialement, parce que les gens aussi prennent les choses un peu trop de manière stricte.
Ouais, noir ou blanc, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de choses, faut nuancer, en fait, quoi.
Ils prennent pas, comme tu dis, la légèreté. C'est-à-dire que si tu leur dis, OK, je suis vegan, ils vont dire, ah ouais, OK, tu manges jamais de... Non, mais attends, OK, je suis vegan, mais moi, je rentre une fois par an, je vois ma mère, elle me ramène des croissants, je vais pas lui dire non, tu vois. Il y a aussi ce côté, OK, faut vivre avec, vis la vie, en fait, tu vois. Vis ta vie, il y a pas de, c'est une journée à pas faire quelque chose, c'est pas la mort. Et je pense qu'il faut être aussi un peu détaché de ça, tu vois. Là par exemple, moi je suis végane aujourd'hui, j'ai été végétarien, j'ai été crudivore, j'ai été omnivore, j'aimerais bien tester.
Tu testes des choses, quoi.
Je teste des choses, tu vois, il y a pas de, moi ça me définit pas. Et les gens en fait, ils sont attachés à ça, tu vois, ils disent voilà, ça me définit, tu vois. Je suis ce diplôme, je suis ce travail, je suis en couple, je suis divorcé, je suis veuf. Mais détendez-vous, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que on est des êtres en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. C'est notre nature de changer et d'évoluer. Et moi, c'est marrant, il y a quelque chose que ma mère me disait tout petit, tu vois. Et tout petit, elle me dit ça, et j'avais jamais compris l'impact, le poids de ces mots-là, tu vois. Et elle me disait tout le temps, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais sauf qu'elle me le disait à chaque fois que moi, je faisais une bêtise ou un truc, tu vois. Et c'est que maintenant où moi, j'ai tout le temps envie d'utiliser cette phrase, parce qu'elle est... Elle est vraie. Il y a que les imbéciles. Oui, c'est dans ça.
Moi aussi, on me disait tout le temps ça, et c'est vrai que j'en comprends tout le sens depuis pas si longtemps. C'est vrai.
Absolument. Moi, c'est que récemment que je me dis, mais attends, mais c'est vrai. Là, tu peux changer ta manière de t'alimenter, ta manière de t'entraîner, tes relations. Tu peux être marié pendant 15 ans, tout lâcher, passer à autre chose. C'est pas évidemment ce qu'on recommande. Mais si tu sens qu'il y a des fins de cycle, il y a des chapitres qui doivent avoir une fin, même au détriment de certaines choses que tu pensais être toujours avec toi, tu vois, toute ta vie, par exemple la relation avec la famille, si tu dois couper les ponts avec certaines personnes, c'est ce que c'est le mec tout, tu vois, c'est faut avancer, ça fait partie du cycle. Et d'ailleurs un autre conseil que ma maman, enfin un autre dicton que ma mère me disait toujours,
notre inception,
c'est que aussi maintenant que je la comprends, parce qu'avant quand j'étais petit, elle me le disait, mais je trouvais ça trop morbide. Elle me disait, imagine, elle disait ça, j'étais enfant. Elle me disait, tu es né seul, tu vas mourir seul. Et moi, je disais, maman, je suis ton enfant quand même. Donne-moi, dis-moi quelque chose de positif. Et en fait, c'est vrai. C'est pour montrer aussi que c'est ça, en fait. T'attaches pas à des choses alors que tu vas pas les emporter, en fait. C'est pas si important.
Exactement. Et puis, tu vois, rationaliser encore une fois sur l'immensité du temps. Tu vois, souvent, je pensais, avant, quand j'étais plus jeune, je pensais à ça, ça me mettait hyper mal à l'aise. Et aujourd'hui, quand même beaucoup moins. Mais c'est le temps. Quand tu penses à l'immensité du temps, même de la planète, notre existence à nous, ouais, elle signifie, en fait, on n'est rien, quoi. C'est-à-dire que dans l'immensité de l'univers, notre vie tout entière, hein, même si tu vis 80 ans, ça représente strictement rien, quoi. C'est à peine un souffle ça représente rien du tout. Donc c'est pour ça que souvent, quand je veux prendre des grandes décisions, tu vois, par rapport au combat notamment, tu vois, où des fois il y a des périodes où quand t'es en préparation de combat, surtout dans les MMA, où ça prend beaucoup de temps, c'est des cycles de 1 mois, 2 mois, voire des fois 3 mois de préparation. Plus après une diète, plus la dernière semaine un cutting où vraiment tu te retrouves seul face à toi-même et c'est des moments très difficiles, tu vois, et où je rationalise, tu vois, je me dis bah, en fait attends, c'est bon, quoi, je suis en train de faire mon histoire là, on est en train de faire tu vois, c'est ce que j'aime, c'est ce que, et en fait je pense que tu vois la façon dont on vit aujourd'hui, on s'en éloigne beaucoup de tout ça, tu vois, du sens justement, et de ouais, on prend trop les choses au sérieux, tu vois, on
prend vraiment beaucoup les choses à cœur, alors que comme tu dis,
on veut vraiment, comme tu dis, tu vois, tout de suite se catégoriser quelque part, parce qu'en fait c'est une histoire de sécurité aussi, tu vois, c'est finalement le besoin de sécurité dans l'échelle de Maslow, c'est tout en bas. Pourquoi? Parce que c'est une des premières choses qu'on ressent comme être humain, tu vois, on a besoin d'être en sécurité. Et là, le truc, c'est qu'on le perçoit pas forcément comme une sécurité, parce que c'est pas une sécurité, genre, on va me voler, ou on va me tuer, ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même ça. Et je pense que ça prend beaucoup d'importance aujourd'hui, ce sentiment d'appartenance à une catégorie si on n'y est pas, c'est pas bon, alors on n'est pas bien, on peut pas se sentir là, on peut pas se sentir en paix. Mais non, en fait, c'est, tu vois, chaque chose en son temps, quoi.
C'est clair, c'est marrant que tu parles de ça. C'est la conversation qu'on avait à l'instant là avec Steb, là juste avant qu'on s'appelle toi et moi, où on disait que en fait nous on peut pas se définir. Il y a pas de catégorie auquel on appartient. On appartient à la catégorie qu'on crée nous-mêmes. Tu vois, on est la combinaison de toutes nos expériences. Et c'est pour ça que c'est impossible.
C'est en perpétuelle évolution, quoi.
Absolument.
C'est-à-dire demain, tu vas trouver une passion pour la cuisine ou pour la permaculture, et tu vas avoir une opportunité pile à ce moment-là d'aller en vacances chez un type que juste à côté il y a une ferme à vendre et que tu vas rencontrer une fille. Enfin là, je pars dans un truc, mais c'est ça peut exactement ça, tu vois. Et en fait, finalement, tu vas écrire des livres, être philosophe, et c'est ce que je veux dire. Ah, et planter des aubergines.
On n'en sait rien, mais si tu te catégorises dès le début, mais moi regarde, je suis dentiste et je peux faire que ça, et que j'ai eu le diplôme, donc je fais ça, et qu'après il y a la retraite, et en fait c'est fini, tu t'es déjà bloqué toutes ces opportunités.
Et là, exactement, et pour ça faut le lâcher prise, tu vois.
Voilà. Et nous on en parlait, mais déjà ce chemin là, ce cheminement, en arriver à comprendre que ne pas se catégoriser, c'est essentiel en fait pour avancer et progresser, tu vois. Moi c'est pour ça que je pense, toi pareil. Avec Steve ou d'autres, tu vois, que ça soit ma sœur et toutes les autres personnes qui côtoient un peu nos vies, qui sont un peu dans le même mood. Moi, répondre à la question, c'est quoi ton métier? J'ai pas de réponse, tu vois. Ou même, tu habites où? Ou tu fais quoi dans la vie? J'ai pas de réponse. Tu fais plein de trucs en fait. Par contre,
si tu n'as rien établi, ça se trouve demain. Après, je pense que ça aussi, c'est évolutif aussi. C'est-à-dire que demain, tu pourras, ça se trouve, retrouver dans une situation. Tu vois, par exemple, moi là, je me retrouve dans une situation plus relationnel, où j'ai un peu un rôle, comment dire, de pas de père de famille, mais quand même plus ou moins, tu vois, ma copine elle a sa fille, etc., donc elle vit quand même une grosse partie du temps avec nous et tout, donc j'ai cette position là c'est pas une position que j'aurais pensé avoir il y a même encore 3 ans de ça ou 2 ans de ça, tu vois, et au final là je suis dans cette position et voilà, c'est, il y a rien d'établi, quoi, finalement, tu vois, c'est les choses elles évoluent continuellement, mais je me ferme pas des portes dans ma tête. Enfin, je vais pas dire par là que je veux changer de de vie ni quoi que ce soit. Je suis très bien dans cette vie-là. Mais en termes professionnels ou en termes relationnels avec les autres et tout, tu vois, ça change rien, quoi. Tu vois.
Absolument. Et moi, c'est pareil. Bah là, que quand il s'agit de métier ou etc. Tu vois, si par exemple tu m'avais connu au Brésil à ce moment-là et que je faisais ça, bah ok, ça c'était ma casquette à ce moment-là. Si 3 mois après j'étais sur un tournage d'un film et que je faisais ça, bah oui, bah en fait tu m'as connu à ce moment-là en train de faire ça. Et mais tout ça, ça fait partie de qui je suis, et de la même manière que toi, c'est toutes ces cartes en fait que tu peux jouer, que tu peux utiliser, et comme on est dans ce changement perpétuel, on a toujours aussi envie d'apprendre des nouvelles choses, et donc on a plusieurs cartes, plusieurs casquettes. Et c'est comme ça en fait, l'humain il est censé faire ça, de la même manière que ton corps est censé être capable de bouger dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, être capable de comprendre le monde à l'envers, la quadrupédie, la coordination, les anneaux, etc. Et bien ton être il est aussi capable de faire ça, tu peux parler 30 langues, avoir 50 métiers, tu peux être coiffeur, boulanger, astronaute tout en même temps. Il y a pas de définition à l'être humain et comment le vivre, tu vois, comment c'est à toi de définir ton expérience, tu vois, si tu as envie qu'elle soit aussi colorée que voilà, avoir un métier par mois, bah tant mieux, tu vois, si tu veux changer de maison toutes les semaines, fais ce que tu veux. Et bien sûr, si tu veux rester avec la même personne, avoir des enfants, fonder quelque chose et tout pendant 70 ans, mais libre à toi, force à toi, tu vois, abondance. Mais je pense que c'est accepter ça en fait, accepter comme tu disais que on fait partie de l'univers. L'univers étant infini, on a aussi cette infinité de possibilités. Tu vois, on n'est pas fermé à des choses. C'est illogique en fait de penser que on évolue dans un univers comme tu disais, un cosmos qui est incroyablement vaste, infiniment gigantesque. On peut même pas concevoir intellectuellement. Et que nous, on devrait être fermé à une boîte. Ça n'a pas de sens.
Si
on
en fait partie, pourquoi? Mais ça, après, ça fait partie de justement le choix de société qu'il y a eu de fait il y a déjà pas mal d'années pour, tu vois, et qui fait qu'on a été éduqué comme ça, qu'on a grandi comme ça, même sans parler de l'éducation de nos parents, tu vois, l'éducation à l'école, etc. Enfin, tu vois, on a été formé comme ça à devoir se mettre dans une boîte. Donc c'est vrai que c'est difficile quand après t'arrives à 20 ans, 25 ans, 30 ans, et de remettre en question ça comme on est en train de le faire là, et de dire bah ouais, mais non, en fait, ce serait bien de voir les choses différemment et tout. C'est vrai que c'est difficile. Donc c'est,
absolument, c'est difficile. C'est un chemin qui est long, qui est périlleux. Mais comme tu disais aussi au début, avec le fait qu'on ait maintenant accès à cette information et à Internet, c'est plus facile d'avoir accès à ces informations alternatives, que ça soit au travers de bouquins, de gens, de vidéos. Ça peut être même un instant, ça peut être 1 minute 30 d'une vidéo un peu inspirante sur Facebook, et ça refait ta journée et ça te permet d'avancer.
Mais de toute façon, c'est pour ça, je pense qu'on va vers ça, nous, enfin notre génération et les générations d'après, parce que tu vois, on va devoir de toute façon s'adapter, on va devoir se recréer. Tu vois, je pense que le schéma de je rentre dans une entreprise, je reste 40 ans, j'ai ma retraite, tout va bien et j'ai fini de payer le crédit et machin, je pense que ça peut encore arriver dans certains cas exceptionnels dans la génération, mais ça va se faire de plus en plus rare. Et de toute façon, il faudra se recréer, il faudra naturellement avoir un retour à la nature, il faudra, tu vois. De toute façon,
ça semble en effet être une évidence, quelque chose d'incontournable. On peut pas y échapper. C'est très difficile de voir un monde dans lequel on arriverait à continuer à vivre et à avancer dans la direction dans laquelle on est, tu vois, avec de plus en plus de consommation, de progrès au sens technologique, sans qu'il y ait cette connexion, en fait, cette reconnexion à la Terre, parce qu'au final, on la perd et on se perd. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Ça semble inévitable, quoi, de devoir repenser le monde et de devoir le penser de manière peut-être plus simple. Pas primitif, juste plus simple, tu vois. Tu peux avoir toute la technologie du monde, avoir Internet, et en même temps faire pousser tes courgettes dans ton jardin. Je veux dire, les deux sont
compatibles. Comme on disait, tu vois, moi, de toute façon, je pense qu'on pourrait pas avoir cette discussion-là si on n'avait pas eu Internet. Ou peut-être, ça se trouve, on aurait été à la bibliothèque, on aurait été motivé. Je suis pas tout à fait sûr.
Pour les amis.
Je suis pas tout à fait sûr que j'aurais été ce type de personne, mais en tout cas, Internet et les voyages, et tu vois, comme on disait, ouais, les voyages.
Les livres et tout. Mais ouais. Mais justement, là, moi, j'aime bien, comme on est un peu sur ce sujet-là, tu vois, moi, j'aime bien poser un peu les questions les mêmes questions aux invités un peu vers la fin, tu vois, pour un peu fermer la boucle et, comme je te disais, laisser aux gens des outils, des choses un peu palpables qu'ils peuvent appliquer, qu'ils peuvent peut-être rechercher. Et donc, je vais te poser un peu la même question que j'ai posée là aux deux invités précédents. La première, c'est si tu avais un seul livre à recommander, quel serait ce livre et pourquoi? C'est un truc que tu vois, tu peux prendre sur Amazon et tout.
Un seul livre. Moi, je vais dire un classique de chez classique parce que déjà, je suis pas un gros lecteur. Encore moins là, pour être honnête, de toute façon, je pense que tu sais bien, mais déjà depuis l'année dernière et les préparations de combat et tout ce que j'ai passé tout, ça a été hyper difficile. Mais Paulo Coelho, l'alchimiste, parce que ça a été le premier livre vraiment qui m'a qui était en plein au moment M où j'étais dans une un éveil et une remise en question générale sur ma façon de vivre et de voir la vie, et aussi parce que c'est à 100% de ce dont on parlait là, de comprendre en fait que la finalité, c'est pas la finalité en elle-même, l'objectif, mais c'est le chemin pour aller vers cet objectif-là. Tu vois ce que je veux dire? Qui est finalement la finalité.
Ouais. Et c'est vrai qu'il est assez puissant ce livre. Moi aussi, il a traversé ma route et je m'attendais pas à justement avoir ces révélations. Tu vois, j'avais longtemps entendu des gens le recommander souvent, mais je m'attendais pas du tout à avoir ça d'un livre comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement le format à travers lequel toutes ces sagesses elles sont transmises? C'est particulier, tu vois.
Alors après, moi je l'ai lu, si je me souviens, c'était, on faisait un voyage, justement une baroude à l'époque avec des potes dans l'est de l'Europe, et on était on était vraiment en voyage, tous les deux jours on changeait d'endroit, et donc j'étais en voyage à ce moment-là quand je l'ai lu, et vraiment ça m'avait ça m'a plu, c'était facile à lire, parce que du coup, comme je disais, je suis un gros lecteur, donc c'est hyper facile à lire. Et c'est un roman, une histoire très simple à comprendre, et je pense ça qui m'a et comme ça se lit facilement, tu vois, des morales aussi hyper faciles à comprendre. C'est un truc qui m'a énormément aidé. Après vraiment, parce que je peux pas en citer qu'un, mais le bouquin qui a été ma révélation de cette époque aussi, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss.
Amen.
Ouais. Parce que là, je peux pas ne pas le dire, tu vois, c'est pas possible. Après, je veux pas faire, tu vois, encore une fois, parce qu'après, on pourrait dire, c'est truc de gourou, etc. Mais franchement, la semaine de 4 heures, ça a été vraiment, enfin, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai lu, au moment où je l'ai lu, et dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, et ce vers quoi j'allais et tout, c'était vraiment très, très, très utile, quoi. C'était très, très utile.
Il est prêt.
Et vraiment, c'était le début du cheminement, pour moi, vers le tour du monde et vers ce que je vis là en ce moment, quoi. Donc là, du coup, Tim Ferriss, parce que plein d'outils à l'époque, j'étais salarié, mais c'est, en fait, j'étais quand même assez libre, parce que c'est une entreprise familiale, donc j'avais quand même pas mal de liberté, et surtout pour aider et pour développer l'entreprise. Et en même temps, aller vers une vie plus, sobre et plus, tu vois, optimiser le temps de travail, en fait, pour justement avoir plus le temps de vivre. Ouais. Donc, ça a été au départ vraiment utile par rapport à ça. Et après, par la suite, pour moi, entrepreneur, des outils pour un entrepreneur, et du coup, vivre, travailler d'une façon plus intelligente, on va dire, quoi.
Absolument, rentabiliser ton temps de travail, travailler moins, mais produire bien plus, ce qui fait que tu as tout ce temps libre pour les activités qui font sens à la vie, tu vois.
Absolument. Exactement, à ta vie, et qui du coup vont te donner encore plus d'énergie physique et mentale et spirituelle pour la reverser derrière dans ton business, ainsi de suite, tu vois, et finalement créer une espèce de synergie, tu vois, intérieure, et du fait que tu te sens bien, du coup t'es plus à l'aise, et du coup t'as plus de temps pour réfléchir, te poser, et du coup t'as des meilleures idées pour ton business, et du coup comme ton business il est bien organisé, et il tourne mieux, etc. Et en fait, donc c'était vraiment un super livre par rapport à ça. Et un troisième, parce que du coup jamais 203, l'attitude zéro de Mike Horn, là pareil. Alors là, du coup, dans un complètement autre style, je sais pas si tu l'as lu.
Non, je l'ai pas lu.
Dis-moi en plus.
À latitude zéro, c'était quelque chose. Bah, c'était la même période, hein.
La latitude, la longitude ou latitude comme une attitude?
Non, latitude. Latitude zéro, parce qu'en fait, c'est le premier être humain à avoir fait le tour du monde à pied. Et lui, là, bah, je pense, Mike Horn, du coup, là, moi, là, je te parle de ça, je l'ai lu en 2014. Là, j'ai vu qu'entre temps, il est devenu YouTuber.
Ouais, c'est fini. Mike Horn.
Comment?
Moi, je le connais de YouTube, ouais.
Yes. Bah ouais, non, enfin après moi ça faisait vraiment pas mal d'années, et en fait il avait écrit un bouquin sur donc son tour du monde qu'il avait fait en solitaire, et c'est un tour du monde qu'il a fait vraiment il a eu des moyens après, parce qu'il a trouvé des sponsors, justement il était marié avec une Suisse, d'ailleurs sa femme qui est décédée il y a quelques années, qui est décédée assez jeune d'ailleurs, bref, et vraiment lui c'est un mec ouais, c'est incroyable, quoi. Parce que j'avais lu son bouquin, c'était vraiment à peine incroyable, quoi. Il a d'ailleurs, je crois qu'il y a un mini documentaire sur YouTube filmé un peu à la Globefighter, quoi. Tu vois, bon, pas monté pareil, parce que nous, du coup, enfin, mon pote qui s'occupait de l'édition, Vincent Borde, il a vraiment fait ça aux petits oignons, mais eux, à l'époque, c'était, ce qui c'était, en fait, il a fait le tour du monde, c'était en 1999 qu'il a fait ça.
Wow.
Il a fait ça sur, je sais plus combien, je crois que c'était un an et demi. Je sais plus un jour ce que ça faisait, mais il l'avait fait en un an et demi. Et il a traversé l'Amazonie à pied. Attention, hein. Il a traversé l'Amazonie à pied. Il a failli y passer. Il a traversé l'océan Pacifique en 3 mois avec un trimaran de 7,50 m. Donc, c'est un petit bateau pour faire ça. En 3 mois et demi, il l'a fait. En sachant que le mec savait pas naviguer à la base. Il a appris à naviguer sur des lacs et tout, il est parti one shot, il a fait l'Atlantique, après il a traversé l'Amazonie à pied, ensuite il a traversé le Pacifique en 3 mois et demi, ensuite il a traversé l'Indonésie, etc., à pied, ensuite le mec est arrivé en Afrique pendant, il a traversé des pays qui étaient en guerre civile et tout, il est parti en prison, enfin bref, c'est un truc de fou ce bouquin, franchement c'est un truc de fou, et je l'avais lu ouais, à cette même époque, et vraiment ça m'avait donné c'est une soif d'aventure, quoi.
Ah bah oui.
Donc voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, mes conseils, voyage, sincérité avec soi-même, bah lisez Mike Horn et ça va, la soif de voyage va venir naturellement.
Magnifique. Tu nous prépares en fait une concoction pour finir tout ça.
Ah, là, vous avez le combo gagnant là.
Le Mike Horn gagnant. En premier. Ah magnifique.
Non, d'abord Paulo Coelho, Mike Horn et après Tim Ferriss pour la partie organisationnelle.
le combo du Black Fighter. Comment lâcher son travail, quitter sa famille, sortir de son pays et ouvrir une entreprise.
En fait, on devrait faire une certification avec ces 30 points. Et Pierre Rabhi en dernier, sobriété heureuse pour arriver à la permaculture, l'agroécologie. Et là, on a un monde meilleur.
Sur élévation Kundalini et on part tous en voyage astral et on s'arrache d'ici.
et là, on change complètement de modèle de société. C'est-à-dire que là, tu mets ça à l'école.
Ah, magnifique, magnifique. Mais écoute, des belles recommandations. Une dernière question là, ça va être le coup de grâce, ok? Tu nous as donné beaucoup d'outils, je te remercie, tu nous as vraiment donné, tu nous as pas mal partagé aussi, t'as ouvert ton cœur, comme à chaque fois, mon Thibaut, une belle conversation cosmique. La dernière question, ça va être, si jamais t'avais l'occasion d'avoir à ta disposition un moyen visuel pour partager quelques mots, que ça soit une phrase, une citation, vraiment quelques mots succinctement, tu vois, qui serait visible par tous, une sorte d'héritage, quoi, quelque chose que tu lèguerais, quels seraient ces mots? Tu peux choisir ce que tu veux.
Alors,
toi, une citation, absolument ce que tu veux, tu vois.
Alors là, tout de suite, j'ai pas du coup de citation en tête. Ouais, c'est difficile comme exercice. Ouais, j'avoue, là, j'ai pas.
Bah non, mais en flou, hein. Je dis ce que tu. S'il y a quelque chose qui m'a.
Ouais. Donc, envie de trop bien faire, du coup, là.
l'exercice parfait après cette conversation.
Des mots. Là, ça me fait un peu penser aux 7 habitudes. Imagine ton enterrement et qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise à ton enterrement.
Je devrais peut-être la poser comme ça, la question.
Ouais, c'est le même genre. Bah après, ouais, sincérité.
Ouais.
Sincérité. Là, ça va faire un peu Gandhi, tu vois, mais sincérité, amour et détermination. Détermination, je pense.
Ouais. Magnifique. Sincérité, amour et détermination.
Ça me décrit bien. Ouais.
Le gourou dans toute humilité. Ah, magnifique, mon Thibaut. Ben écoute, franchement, bien cosmique la conversation. J'adore cette fin. Cette fin.
Allez, au revoir, bonne journée.
Allez, bisous. Allez, au revoir. À la soupe. Magnifique, mon Thibaut. Ben écoute, merci à toi. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça va être un bel épisode, que les gens vont avoir pas mal d'outils. Et puis voilà, mon frérot, bah écoute, nous, on s'est régalé. On a fait quoi là?
Carrément, avec grand plaisir. Bon, en fait, c'était comme
45 quand même. C'est pas mal. Hein.
C'était comme un appel normal, en fait.
Bah ouais, c'est ça. C'est un appel normal, en fait. Ça fait du bien d'avoir de tes news là et puis d'avoir pu échanger un peu sur toutes les choses là que tu faisais au camp, d'avoir les nouvelles aussi sur la prépa physique, et puis de sentir aussi que t'es toujours aussi bien et que tout avance pour le mieux, mais que ça me fait super plaisir.
Moi aussi, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'était très cool. J'espère avoir bien répondu à tes questions, avoir servi à la cause du podcast Nomad Slim.
Aïe, absolument.
On va se connecter.
Absolument. Bah écoute, abrazo hermano.
Allez, ou abrazo hermano. Ciao, ciao.
Ciao. Oh oui, une fin épique à une conversation cosmique autour de la sincérité, tout en humour et tout en amour avec Thibaut Marino, aka le Globefighter. Comme d'habitude, dans la description de ce podcast, de cet épisode, vous allez retrouver tous les liens, que ce soit pour le documentaire du Globefighter, le site du MMA Camp Brésil. J'invite vraiment tout le monde à y aller si vous voulez vraiment une expérience incroyable d'arts martiaux, mais aussi vous imprégner de la culture brésilienne dans un camp d'entraînement MMA et Jiu-Jitsu brésilien absolument incroyable. J'ai eu la chance d'y passer presque 5 mois. Donc voilà, vous allez beaucoup apprendre et beaucoup expérimenter, donc n'hésitez surtout pas. Aussi, je vous mets en lien les quelques petites astuces, petits outils que Thibaut mentionne. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast où vous allez avoir toutes mes notes écrites. Voilà, pour celles et ceux qui veulent avoir un compte rendu écrit et extraire des outils. Je sais qu'on parle beaucoup de certains films, certains documentaires ou certaines phases de la vie. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être très, très utile d'avoir ces petites notes. Et puis voilà, en vous remerciant encore une fois de me donner votre attention et votre soutien. Si vous avez des recommandations, des commentaires, des choses qui vous ont plu ou déplu, n'hésitez pas, inscrivez-les en commentaire, ça aide pas mal d'autres personnes à nous rejoindre. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'abondance, de la gratitude, de la bienveillance, et continuons autant que faire se peut d'exploiter encore un peu plus notre potentiel humain et essayons d'avoir ensemble une expérience de vie sur Terre toujours plus agréable. voilà, des gros bisous les movers. Ciao, ciao. Uncool for your love.